Vous êtes sur RTL.
Nous vous proposons ce matin une rencontre à 7h40 avec la députée du Maine-et-Loire, Laetitia Saint-Paul, capitaine dans l'armée de terre, mais surtout première militaire femme et homme confondu à siéger à l'Assemblée nationale depuis 1918. C'est la journée internationale du droit des femmes. Et nous y reviendrons aussi à 8h20 avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui viendra dévoiler le tout dernier index de l'égalité professionnelle en entreprise. Il sera aussi question de la vaccination en entreprise. Après un week-end de montée en puissance, près de 600 000 Français ont été vaccinés en 3 jours. Nous sommes le lundi 8 mars 2021. Bonne journée à tous. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
C'est elle la première qui avait porté les accusations contre Samuel Paty. Elle a reconnu avoir menti.
Cette jeune ado de 13 ans n'avait en réalité jamais assisté au fameux cours sur les caricatures, un mensonge inventé pour justifier son absentéisme. Ignorée, dénigrée, réduite au silence et même victime de racisme, les confessions choc de Meghan Markle cette nuit aux États-Unis, l'épouse du prince Harry n'élude aucune question, y compris les plus tabous sur ses envies de suicide.
Je ne voulais tout simplement plus être en vie. C'était une pensée constante, très claire, réelle et effrayante.
Nous y reviendrons longuement dans ce journal. C'est un coup d'accélérateur incontestable cette fois. Près de 600 000 personnes vaccinées en 3 jours grâce à des injections de masse. La fin du voyage du pape François en Irak, un déplacement historique. Et puis l'humiliation pour Marseille, l'OM sorti en Coupe de France par les amateurs de Canet-en-Roussillon.
La politique, Olivier Bost.
Et justement avec les vaccinations de ce week-end, une question. Quand Emmanuel Macron appellera-t-il les Français à se faire vacciner?
Une bonne question à laquelle vous répondrez à la fin du journal.
RTL Matin.
Un mensonge d'adolescente serait-il à l'origine de la mort de Samuel Paty, la jeune fille qui la première avait accusé l'enseignant d'avoir montré des photos du prophète nu et d'avoir demandé aux élèves musulmans de sortir, n'avait en réalité jamais assisté au cours en question. Les enquêteurs l'avaient dès le départ établi. La jeune ado, elle, a fini par le reconnaître, Cindy Hubert.
Oui, il aura fallu plusieurs auditions pour que la jeune fille craque enfin. « J'ai menti sur un truc », dit-elle aux enquêteurs. L'adolescente reconnaît qu'elle n'a jamais vu les caricatures projetées par Samuel Paty, tout simplement parce qu'elle n'était pas en cours ce jour-là, exclue pour absentéisme chronique. La collégienne n'a pas envie de décevoir son père et d'être comparée à sa sœur jumelle bien plus assidue. C'est donc pour ce motif dérisoire, cacher cette exclusion, dit-elle, qu'elle va inventer cette histoire de caricature, prétendre que son professeur a fait lever la main aux élèves musulmans pour les faire sortir et diffuser des dessins du prophète. « Si je n'avais pas dit ça à mon père, il n'y aurait pas eu tout ça », regrette l'adolescente, qui dit avoir pleuré en apprenant la mort de Samuel Paty. Son père est toujours incarcéré. Ce sont ces vidéos qui ont conduit à cet engrenage, insiste l'avocat de la jeune fille, qui refuse qu'on fasse porter la responsabilité de cette tragédie à une gamine de 13 ans.
Cindy Hubert, deux profs accusés d'islamophobie par un syndicat étudiant et qui voient leur nom placardé sur les murs de l'école. Ça se passe à Sciences Po Grenoble. Et dans le contexte Samuel Paty que l'on vient d'évoquer, forcément la méthode passe mal. Un affichage sauvage relayé dans un premier temps par l'UNEF. Une enquête a été ouverte pour injures publiques et dégradation.
Près de 600 000 personnes vaccinées en un week-end, l'accélération si souvent promise serait-elle enfin là?
En 3 jours, le bilan en tout cas est incontestable grâce notamment à ces opérations XXL qui ont eu lieu un peu partout en France, et centaines de personnes vaccinées les unes derrière les autres. Une expérience éphémère, le temps d'un week-end, mais que la ville de Marseille, Hugo Hamelin, a décidé de faire durer encore quelques jours.
Absolument, dispositif prolongé jusqu'à mercredi. L'emplacement est idéal pour les responsables politiques, très central, très visible par les milliers de promeneurs du Vieux-Port. Accessible aussi, puisqu'un tiers des 700 doses est réservé spécialement pour les gens qui viennent sans rendez-vous.
Et donc vous, madame, vous passez devant, comme ça?
Eh oui, je me dis, pourquoi pas.
Tu récupères un flacon vide contre un flacon plein. Okay. Et 10 aiguilles.
Thierry Zaveroni, le chef des marins-pompiers.
Tout le monde ne peut pas accéder à la plateforme, soit parce qu'ils n'ont pas de téléphone, soit parce qu'il y a tellement de demandes qui sont réalisées dans la journée que certaines personnes n'arrivent pas à voir la plateforme. Et donc pour éviter d'avoir effectivement des Marseillaises, des Marseillais mécontents, on les prend en liste complémentaire, si je puis dire.
Il y a même la queue en fin de journée pour essayer de gratter les toutes dernières doses qui ne doivent pas être gaspillées.
Là, on bénéficierait des personnes qui ne sont pas venues au rendez-vous pour avoir la dose restante. Donc on attend.
Grâce à ce dispositif, Marseille va passer de 500 à 700 vaccinations par jour. Le chemin sera encore long pour vacciner l'ensemble des 800 000 habitants de la deuxième ville de France.
Hugo Hamelin, un confinement de 2 semaines décrété en Nouvelle-Calédonie après la découverte de 9 cas positifs. Jusqu'ici, ce territoire du Pacifique Sud avait été l'un des rares de la planète épargné par le virus. C'est aujourd'hui, 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. RTL mobilisée toute la journée avec des reportages, des invités. Et dès hier d'ailleurs, la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, était face au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Et sans langue de bois, elle a reconnu qu'en matière d'égalité, il y avait sans doute des progrès à faire. Au plus haut sommet de l'État, peu de femmes, par exemple, parmi les membres du cabinet d'Emmanuel Macron.
Je lui ai dit, monsieur le président, vous ne donnez pas l'exemple.
Et qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Je peux garder ça pour moi.
Oui, vous savez, c'est sa grande cause.
C'est la
grande cause. C'est sa grande cause. Ouais. Ce que je peux vous dire, est-ce que vous avez vu un gouvernement aussi paritaire que celui-ci, 51% de femmes dans notre gouvernement, et à des postes stratégiques, Florence Parly, Barbara Pompili, Roselyne Bachelot, Elisabeth Borne. Enfin, pardon, mais...
Une des promesses d'Emmanuel Macron d'avoir une femme ministre ou d'avoir une femme à la tête de l'Assemblée nationale. On n'y est pas non plus.
Je vous laisse poser la question à Emmanuel Macron.
Et Elisabeth Moreno, hier invitée du grand jury.
La ministre qui citait donc sa consœur, Elisabeth Borne, en charge du travail et de l'égalité hommes-femmes en entreprise. Eh bien, les bons, les mauvais élèves, nous ferons le point avec elle. Il sera 8h20. Dans un instant, une interview, plutôt un règlement de compte. Harry et Meghan chargent la famille royale et ils ne font pas semblant. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Kell.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Le grand déballage cette nuit aux États-Unis. Un an après leur départ d'Angleterre, Harry et Meghan ont donc décidé de charger sans retenue la famille royale.
Dans une longue interview, confession orchestrée par la reine du genre outre-Atlantique, Oprah Winfrey, diffusée cette nuit par la chaîne de télé CBS, 2 heures d'entretien, de mise au point et de révélation. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis et vous l'avez suivi cette nuit, cet entretien. C'est elle, Meghan Markle, qui a démarré. Et ce qu'elle décrit relève davantage du calvaire que du rêve de princesse. Hein.
Oui, elle parle d'abandon, d'effacement de sa personnalité, très marquée par les attaques des tabloïds ou sur les réseaux sociaux quant à la couleur de sa peau. Et si elle a quitté Londres, c'était une question de survie, dit-elle. Et c'est l'un des moments forts de cet entretien. Meghan Markle, tellement malheureuse qu'elle a pensé au suicide.
Je ne voulais tout simplement plus être en vie. C'était une pensée constante, très claire, réelle et effrayante.
Alors Meghan Markle a demandé de l'aide auprès de l'entourage royal. Elle voulait consulter, voir un médecin. Impossible, ce serait de la mauvaise publicité, lui aurait-on répliqué. Et le point de rupture, des soupçons de racisme envers leur premier enfant, Archie, avant même sa naissance, avec cette étonnante question de la part d'une personne de la famille royale que Meghan Markle n'a pas souhaité nommer.
Il y a eu cette conversation, savoir à quel point sa peau serait noire à la naissance.
What?
Meghan Markle qui dans un second temps a été rejoint par son époux le prince Harry, et lui non plus, Lionel, n'a pas été tendre avec sa famille. Il parle d'ailleurs d'un système plus que d'une famille.
Et on comprend que ses relations avec sa famille sont très tendues, pas avec la reine, jamais égratignée au cours de l'interview, mais avec son père. À une période, le prince Charles ne lui parlait plus. La famille royale et son entourage ont un surnom, la firme. Harry y décrit une vie sous contrainte.
J'ai été piégé par un système, comme le reste de ma famille. Mon père et mon frère sont aussi piégés.
Alors Harry a dit qu'il ferait tout pour retisser les liens. Il y a tout de même eu un moment léger et joyeux. Le couple a annoncé que leur deuxième enfant serait une petite fille.
Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. L'entretien sera diffusé ce soir au Royaume-Uni. Aucune réaction officielle pour l'instant de Buckingham sur les accusations portées par Meghan Markle. Le pape François a conclu sa visite hier en Irak par une messe devant des milliers de fidèles dans le nord du pays, cette partie ravagée par les djihadistes. Le souverain pontife qui a appelé les chrétiens à ne pas se décourager, c'est le message qu'il a tenté de faire passer durant son séjour. La paix est toujours possible. Vous l'avez suivi, Émilie Beaujard, ce déplacement historique.
Oui, il y a eu beaucoup de symboles dans cette visite. D'abord une rencontre dans la cathédrale de Bagdad touchée par un attentat en 2010, puis cette entrevue historique avec l'ayatollah Ali Sistani. Pendant tout son voyage, le souverain pontife n'a eu de cesse d'appeler à la coexistence entre les religions et à la fin des divisions, comme hier à Karakoche, dans l'église Al-Tahira, qui avait été détruite par Daesh.
Il faut avoir la capacité de pardonner et en même temps le courage de lutter.
Je sais que cela est très difficile. Mais nous pensons que Dieu peut amener la paix sur cette terre. Et avec toutes les personnes de bonne volonté, disons non au terrorisme et à l'instrumentalisation des religions.
Pour les chrétiens d'Irak, ce voyage et ces mots sont une vraie lueur d'espoir. Dans le stade d'Erbil, où le pape a donné une grande messe hier soir devant 10 000 personnes, Patricia, 22 ans, veut y voir un nouvel horizon pour l'Irak.
Trop, c'est trop. Les Irakiens doivent s'unir et arrêter de se diviser. Nous devons mettre fin à toutes les haines. Et c'est le message du pape. Nous sommes tous frères, comme il dit. Et je pense que tout le monde devrait suivre ce discours. On ne veut plus de guerre, de violence, de massacres.
Pour clore cette grande messe, le pape a dit quelques mots en arabe, notamment « salam », la paix, à plusieurs reprises. Salam.
Émilie Bojard avec Jonathan Griveaux, les envoyés spéciaux de RTL en Irak. La mort d'Olivier Dassault, hier tué dans le crash de son hélicoptère à Touk, près de Deauville. Fils de Serge, petit-fils de Marcel. Son décès brutal est une grande perte, a estimé le chef de l'État. À la fois député, élu local, industriel, héritier de l'Empire fondé par son grand-père. Il était aussi l'une des plus grandes fortunes de France.
Il est 7h11. Alors disons-le clairement, l'OM n'avait pas besoin de ça pour aller mal. Nouvelle défaite du club hier et celle-ci est douloureuse.
Parce qu'elle est humiliante. Marseille éliminée des 16e de finale de Coupe de France, battue 2-1 par un club de 4e division, les amateurs de Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales qui ont vécu, eux, pour le coup, une soirée de rêve, Dimitri Moulin.
Un moment intense, un moment de communion à l'issue de la victoire entre les joueurs sur la pelouse et les dirigeants présents dans la tribune. L'attaquant Johan Baye, deuxième buteur, a bien du mal à réaliser.
Il faut atterrir, t'as marqué, mais il faut atterrir. Et là, j'ai pas atterri, mais... Je sais même pas si on a envie de rentrer chez nous. Là. On a même plus envie de quitter le stade. Le vestiaire, il est en folie. On se fait des câlins par-ci par-là. On remercie tout le monde.
Car pour cette première dans l'histoire du football des Pyrénées-Orientales, c'est tout un pays qui est derrière l'équipe. L'entraîneur Farid Fouzari.
Il y a un certain engouement qu'il a aujourd'hui. Les gens sont fiers, les Catalans sont fiers, voilà, du club de Canet-en-Roussillon. Voilà, on leur rend aujourd'hui, on rend un peu de bonheur au pays catalan. Voilà.
Reste un dilemme désormais. Qui pour le prochain tour? Un petit pour tenter d'aller encore plus loin dans l'aventure ou le Paris Saint-Germain pour peut-être un nouvel exploit?
Dimitri Moulin.
On va terminer avec les courses, elles ont lieu à Caen.
Ouais, les pronostics de Dominique Cordier, le 10, l'As, le 9, le 8, le 11, le 7 et le 13, la dernière minute, c'est le 8, Ganymède de Corberie.
Et c'était le journal de Dominique Tenza sur RTL, il est 7h13. La politique avec vous, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous vous demandez si le moment n'est pas venu pour Emmanuel Macron d'appeler en fait tous les Français à se faire vacciner, Olivier.
Oui, c'est étonnant, mais Emmanuel Macron, à ce jour, n'a jamais appelé les Français à se faire vacciner, notamment les soignants. Vous avez peut-être vu des images du chef de l'État dans un centre de vaccination ou entendu parler de ses agacements face aux lenteurs du système, mais il n'y a pas eu d'intervention à la télé ou de messages vidéo sur les réseaux sociaux. Dans sa dernière intervention solennelle, c'était ses vœux le 31 décembre. Il s'est contenté de remercier Morissette, la première vaccinée de France. Et dans sa dernière interview télé sur TF1, il a fait le point sur la production de vaccins sans lancer d'appel. Il s'en tient à son allocution de novembre dernier. La vaccination n'est pas obligatoire, c'est liberté, sécurité, efficacité, résume l'un de ses conseillers.
Alors pourquoi, selon vous, le temps serait venu maintenant d'appeler les Français à se vacciner?
Parce que nous sommes en train d'entrer dans une autre phase de la vaccination, une phase industrielle qui va concerner de plus en plus de monde. Très clairement, il y a eu une accélération ce week-end avec plus d'un demi-million d'injections depuis vendredi. Et ce n'est qu'un début, ce n'était pas un week-end de rattrapage. Ça va encore s'accélérer, promet le gouvernement. L'objectif, je vous le rappelle, c'est 20 millions de vaccinés d'ici 2 mois. 10 millions de piqûres par mois. Jusqu'ici, on en a fait à peu près 10 fois moins, 1 million par mois. Les commandes passées au labo vont finir par arriver en masse. Il faudra alors que l'intendance suive.
Alors là, en revanche, nous avons beaucoup entendu Emmanuel Macron.
Eh bien là encore, vous n'avez pas entendu la voix du président, mais vous avez entendu le récit des réunions où Emmanuel Macron tape du poing sur la table. Avec cette phrase taillée pour marquer les esprits, « Tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens ». Ce n'est pas très difficile de l'imaginer en train de dire ça. Non. C'est le mythe bien entretenu d'un président qui mettrait tout le monde sous tension pour que ça bouge. Sinon, il ne se passe rien. Emmanuel Macron veut de la vaccination 7 jours sur 7. La vaccination, c'est la solution pour désengorger les hôpitaux, la solution pour retrouver une vie normale. À ce jour, il n'y en a pas d'autre, sauf à attendre l'extinction du virus de lui-même.
Ça veut dire que nous aurons donc bientôt des vaccinodromes.
Alors, le mot est encore interdit, Yves. Oui. Le gouvernement redoute que ces usines à piquer apparaissent vides, faute de doses, à la télévision. C'est le traumatisme encore vivace de la campagne contre le H5N1. Oui. Pourtant, dès le milieu de cette semaine, le stade Vélodrome, par exemple, à Marseille, sera utilisé pour vacciner en masse. Si ça, ça n'est pas un vaccinodrome. Oui. Le moment est peut-être venu de dire tout simplement et sans craindre les critiques et les polémiques et sans craindre les anti-vaccins de moins en moins nombreux. Vaccinez-vous pour vous et pour le pays.
Merci beaucoup Olivier Bost. Deux rendez-vous à vous rappeler ce matin. Tout d'abord à 7h40 avec Alba Ventura qui reçoit Laetitia Saint-Paul qui est députée du Maine-et-Loire et officier de l'armée de terre en détachement. Et puis à 8h20, Elisabeth Borne, ministre du Travail, sera avec nous. Elle viendra notamment nous présenter le baromètre de l'égalité homme-femme en entreprise et nous ferons un point aussi sur la situation de nos entreprises un an après le début de la pandémie. Dans un instant, on attache nos ceintures et on se prépare au décollage. Arnaud Touche de notre brigade RTL nous emmène aux côtés des pilotes de ligne, métier qui fait rêver dès le plus jeune âge et qui subit lourdement les conséquences de la crise sanitaire. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Vous l'avez peut-être constaté en levant la tête depuis maintenant un an. Dans le ciel, les avions se font beaucoup plus rares. Et sur la terre ferme, les conséquences de cette réduction des vols sont extrêmement importantes. En premier lieu, pour les pilotes de ligne. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
De notre brigade RTL, bien entendu. Ces dernières semaines, vous avez pu recueillir les témoignages de plusieurs pilotes qui font face à une crise littéralement sans précédent.
Oui, et le sujet n'est pas simple à aborder au micro avec cette profession à laquelle est souvent attaché le prestige de la fonction. Depuis l'année dernière, beaucoup se retrouvent dans des situations franchement compliqué. J'ai pu en parler avec Yann Crosson, il est commandant de bord sur Boeing 787, un avion long courrier. Et le dernier vol de Yann, c'était il y a tout juste un an, une éternité pour lui, qui affiche 20 000 heures de vol sur son carnet et plus de 30 ans de carrière.
C'est long un an, oui, surtout pour un pilote, puisque notre compétence, elle est liée à la pratique.
Il travaillait pour la compagnie Norwegian à Paris, qui a stoppé ses opérations dans la capitale, ce qui a brutalement assombri l'avenir dans les airs de ce commandant de bord.
Je le vois au sol, le marché est totalement mort. Mais en tout état de cause, mon avenir, il n'est pas dans un cockpit demain.
Un constat amer pour lui qui a aujourd'hui 54 ans.
C'est toujours douloureux de quitter une carrière bien remplie sur la fin d'une aventure avec une compagnie qui ne se comporte pas très bien.
Il est également représentant au syndicat national des pilotes de ligne chez Norwegian, une compagnie qu'il accuse par ailleurs de ne pas respecter la loi française en matière de droit social. Il défendra ses collègues pilotes, mais pour lui, sa carrière est désormais terminée.
Mes projets, il y en a un qui se situe à l'opposé d'un vol, puisqu'il s'agit de l'ouverture d'un bar à vin, à bière, à cocktail et à musique dans le Médoc.
Et c'est ce qu'on appelle changer de vie. Lui a eu la chance de mûrir un projet, mais pour certains de ses collègues, cela a été bien différent.
C'est quelqu'un qui a une famille nombreuse, il ne pouvait pas boucler ses fins de mois. Et pour subvenir à ses besoins, c'est quelqu'un qui a participé à la récolte des endives pendant l'hiver, dans le Nord.
Un autre pilote a dû retourner chez ses parents pour travailler dans leur entreprise arboricole et certains commandants de bord se retrouve même aujourd'hui au RSA.
Alors on l'entend effectivement, la situation elle est franchement compliquée pour certains pilotes de ligne, mais du coup certaines compagnies profitent de la crise sur le dos des pilotes.
Alors pour répondre à cette question, je suis allé demander à Olivier Rigazio. Il est membre associé au syndicat national des pilotes de ligne en France. Il est chargé de l'emploi et son constat est très clair.
J'ai jamais vu ça. Les crises pour les pilotes sont de plus en plus violentes.
Et une pratique vient de refaire son apparition.
C'est qu'on propose aux pilotes de payer pour travailler, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir un salaire, pour augmenter leur expérience et pour maintenir leur qualification, ils payent la compagnie pour avoir le droit de piloter leur avion.
Bien que cette pratique soit interdite en France, certaines compagnies étrangères ne se privent plus.
Je viens de recevoir un contrat où on proposait à un pilote de payer 35 000 euros pour avoir 500 heures de vol.
Et pour Olivier Rigazio, cette crise laissera encore plus de traces que les autres.
Et malheureusement, on a cassé des gens, on a cassé des rêves. Et je trouve ça très dommage, surtout que c'est un très beau métier. Maintenant, ce qu'on pourra retirer de positif de la crise, c'est qu'on en sort plus fort.
Alors effectivement, on comprend bien que la situation est délicate, notamment pour ceux qui ont perdu leur emploi. Mais qu'en est-il des jeunes pilotes, Arnaud ?
eh bien, ils ne lâchent rien. La plupart de ceux avec qui j'ai pu discuter ont une passion intacte, à l'image de Théophile, 24 ans.
J'ai toujours su que c'était quelque chose que je voulais faire depuis tout petit.
Il a intégré l'École nationale de l'aviation civile en 2017 et il a obtenu son diplôme de pilote en août l'année dernière, en pleine crise. Il reste pourtant optimiste.
Dès que tout le monde pourra repartir voler, les besoins en pilote se referont sentir.
En attendant que l'horizon soit plus clair, il a décidé de poursuivre ses études dans l'aéronautique, mais il n'a absolument pas renoncé à son rêve de devenir pilote et il est soutenu par ses proches.
Tout le monde me dit que c'est aussi un mal pour un bien, ça me permet de voir autre chose et l'important dans ces crises, c'est de réussir à rebondir.
Un constat partagé par la majorité des pilotes, y compris seniors, qui poussent encore aujourd'hui leurs aînés à croire en ce métier pour pouvoir un jour travailler dans ce qu'ils appellent toujours le plus beau bureau du monde.
La profession se mobilise pour aider les pilotes en difficulté.
Oui, par exemple au SNPL, des cagnottes ont été ouvertes. Il y en a eu 3 depuis mars dernier. À chaque fois, elles s'élevaient à environ 100 000 euros. Les bénéficiaires sont en priorité des pilotes qui touchent le RSA. Le RSA, c'est aujourd'hui 564 euros par mois pour une personne seule. Certains commandants de bord gagnaient plus de 10 000 euros par mois. Il y a un gros delta. Par ailleurs, le nombre de pilotes au chômage a été multiplié par 2 l'année dernière. Avant, c'était pratiquement le plein emploi.
Si on prend un peu de hauteur, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de la situation dans l'aérien en général ?
Oui, notamment à Paris, avec un nombre qui illustre bien ce qui peut se passer dans les prochains mois. 30 000 emplois sont aujourd'hui menacés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle d'ici l'été 2022. C'est énorme quand on sait que l'aéroport fait vivre 94 000 personnes au global. Ici, bien sûr, on parle des 800 sociétés prestataires qui gravitent autour des compagnies.
Bon, j'espère qu'il y a quand même des raisons d'espérer, Arnaud.
Oui, toujours, car l'aérien a connu des crises, mais le trafic est toujours reparti. Le gouvernement croit également au futur du transport aérien et a fait le choix de renflouer Air France, par exemple. Enfin, la recherche et développement ne s'arrêtent pas et les constructeurs ont pour objectif d'arriver à une neutralité carbone dans les décennies qui viennent.
Merci beaucoup Arnaud Touche. Nous allons continuer à parler du ciel, mais avec l'œil du météorologiste, en l'occurrence avec Louis Baudin dans un instant. Bonjour Louis.
Bonjour Yves.
Nous serons aussi avec les Grosses Têtes et Anthony Martin pour une nouvelle pépite musicale. À tout de suite Anthony.
À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h24, Anthony Martin, et nous sommes lundi. Nous souhaitons avoir notre première pépite de la semaine, s'il vous plaît.
Alors, un pur plaisir ce matin. On va écouter une des plus belles voix au monde, celle de la chanteuse anglaise Adèle. On commence à trouver le temps long. Son dernier album est sorti il y a 5 ans et demi. On guette désespérément le single qui annoncera le prochain. Pour patienter, je vous propose une rareté qui n'est pas sur un de ses disques. Il y a 10 ans, Adèle enregistrait dans un studio de Harlem un concert acoustique pour la télévision américaine. Mmh. Elle avait interprété quelques titres de son album 21 qui venait de sortir. Et elle avait ajouté au programme une bonne idée, une chanson d'Aretha Franklin. Le titre « You Make Me Feel Like a Natural Woman » de 1967. Adèle n'avait surtout pas voulu copier la version originale de la reine Aretha. Elle avait choisi d'interpréter la chanson à sa façon, quasi a cappella, simplement accompagnée par une guitare. C'est notre pépite du jour, Adèle, A Natural Woman.
When my soul was in the lost and found, you came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me. To your kiss helped me name me. Now I'm no longer doubtful of what I'm looking for. 'Cause if I got you, baby, I don't need more. 'Cause you made me feel, you made me feel, oh, you made me feel like a natural woman.
Pas vous, mais si j'étais dans un jury, dans un fauteuil, je me serais retourné, vous voyez.
Oui, oui, c'est exactement la réflexion que j'étais en train de me faire.
Adèle et sa reprise du titre Natural Woman de Carole King. Adèle avait confié à l'époque qu'aucune autre chanson ne lui procurait autant d'émotions lorsqu'elle chantait.
Yeah.
all woman. Yeah, yeah.
Je crois qu'il n'y a rien à ajouter.
À demain.
À demain. Retour de nos grosses têtes dès 15h30 cet après-midi et ce matin, on fait un point sur la consommation d'alcool.
C'est vrai que vous ne picolez pas beaucoup, vous, monsieur.
Non, bah non, c'est plutôt une tête saine dans un corps sain.
Voilà.
C'est compliqué dans les temps qu'on a en ce moment de ne pas boire.
Bah si, parce que quand on boit tout seul,
ouais,
moi j'arrive pas.
Moi je bois pas toute seule, moi. Il y a ma fille.
Il y a la télé aussi.
Il y a la télé, il y a votre fille.
Ah
non, mais ça, vous buvez pas vraiment, Isabelle.
Non.
Moi je bois à 18h le jeudi quand je vois Castex.
Alors, boire avec modération, évidemment, mais vous pouvez écouter les grosses têtes sans modération. Rendez-vous entre 15h30 et 18h avec une équipe 100% féminine aujourd'hui. Isabelle Mergaud, Valérie Mérès, Michel Bernier, Ariel Dombal, Valérie Trierweiler et Christine Bravo. Oui, Bodin.
Oui.
Parlez-nous de notre météo, je vous prie.
Bah, ça bouge encore assez peu, oui. C'est-à-dire qu'on a le soleil au nord et les nuages au sud. Bah, ça sera encore un peu le cas aujourd'hui. La limite, c'est La Rochelle-Besançon, au nord, donc du grand soleil, pour ne pas dire du grand ciel bleu. Alors, sauf près de la Manche, c'est vrai qu'on aura peut-être un voile nuageux un petit peu plus épais, notamment cet après-midi, mais toujours sans conséquence, une belle luminosité, pas de pluie, alors qu'au sud de cette limite, bah, ça restera plus hésitant, comme durant le week-end, avec des passages nuageux, des éclaircies, puis de temps en temps des averses. Alors, un petit peu plus rare peut-être que durant le week-end, il en restera un peu, notamment près des Pyrénées, quelques flocons sur ces Pyrénées, même chose sur les Alpes, ça restera très limité, et puis de nouveau un peu plus de soleil sur le littoral méditerranéen, sauf en Corse, où là aussi on aura un petit risque d'averse, tout ça avec peu de vent, et puis côté température, bah là où le ciel a été dégagé, on a de fortes gelées, c'est le cas dans la moitié nord, moins 6 degrés en ce moment à Charleville-Mézières, moins 5 à Épinal, à Nancy, moins 4 à Reims ou encore à 3, donc dans toute la moitié nord ça gèle, dans le sud c'est déjà positif, et cet après-midi 7 à 10 degrés dans la moitié nord, c'est toujours un peu juste pour la période. Et 11 à 14 degrés dans le sud-ouest, jusqu'à 16 degrés parfois près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Bonnard. C'est elle, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 8 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, Marseille se réveille avec la gueule de bois. L'OM est éliminé de la Coupe de France par une équipe de 4e division, Canet en Roussillon, qui l'a emporté 2-1. Un revers de plus pour les Marseillais alors que le nouvel entraîneur Sampaoli doit prendre ses fonctions la semaine prochaine. En attendant, c'est Nasser Larguet qui encaisse les défaites avec amertume.
On n'a pas le droit de se faire sortir comme ça. On est l'OM. Mais c'est ce que je leur ai dit, on doit montrer sur le terrain qu'on est une Ligue 1 contre une Nationale 2, c'est comme si on jouait contre notre réserve, et c'est vrai qu'il y a une remise en cause de chacun d'entre nous pour affronter les prochaines échéances du championnat qui nous reste.
Nasser Larguet avec Dimitri Moulin. Dans ses 16e de finale, on notera aussi la qualification de Lille qui a logiquement battu les amateurs du Gazélec Ajaccio 3-1. Angers a douché les espoirs des Martiniquais du club franciscain battu 5-0. Et qualification aussi des Voltigeurs de Châteaubriant, victoire 3-1 sur Romorantin. Un dernier match à suivre ce soir, le choc Nice-Monaco. Et puis, nous sommes le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, mais c'est sûr, il y a encore du boulot. À Rennes, pour la Coupe de France, les footballeurs reçoivent un équipement complet, maillot, shorts, chaussettes, mais les filles n'ont que le maillot, le même que pour les hommes d'ailleurs. Les footballeuses du cercle Paulbert-Brechini ont donc décidé de jouer avec ce qu'on leur donne, autrement dit en culotte. Petit coup de gueule de la joueuse Manon Elbert.
Je pense que quand on voit les photos, ça attire l'œil directement. Des filles avec des longs maillots qui leur arrivent juste en haut des cuisses, et puis juste avec nos crampons, donc même pas de chaussettes. Je m'étais jamais vraiment posé la question pour la toilette. Effectivement, les garçons ont bien short, maillot, chaussettes, et puis nous, on a juste un maillot. C'est un détail tellement minuscule et en même temps tellement parlant, alors qu'on crée sur tous les toits que le football féminin se développe et que c'est super, qu'on vise l'égalité, etc. Si encore aujourd'hui, il y a même des différences pour une histoire de maillot, chaussettes et short, ben, ça en dit long.
La footballeuse Manon Elluère avec Patrice Thomas. Pour ce 8 mars, une quarantaine d'organisations appellent à manifester dans toute la France. À Paris, elles défileront à partir de 13h de Port-Royal à la place de la République. En tête, celles qui se baptisent les premières de corvée, notamment les infirmières et les aides-soignantes.
L'interview était très attendue et on n'est pas déçus. Hein. Meghan et Harry ont sévèrement balancé cette nuit chez Oprah Winfrey.
Un grand déballage comme on n'en avait pas vu depuis Diana. Meghan Markle raconte par exemple qu'elle a pensé au suicide à une époque et que la famille royale a alors refuser qu'elle se fasse aider. Harry n'est pas en reste. Le prince règle ses comptes avec son père, le prince Charles.
I feel really let down.
J'ai été déçu
parce qu'il a traversé une situation assez similaire. Il sait à quel point c'est douloureux. Bien sûr, je l'aime toujours, mais il s'est passé beaucoup de choses. Et une de mes priorités va être de guérir cette relation.
Une interview au Vitriol donc, qui risque fort de laisser des traces, c'est ce que dit le journaliste de Point de vue, Thomas Pernette.
Cette interview, elle peut avoir des conséquences dommageables pour Buckingham Palace. D'abord, quand Meghan Markle révèle qu'elle a songé à mettre fin à ses jours, puis il y a bien sûr cette accusation à peine voilée de racisme. C'est-à-dire que Meghan et Harry affirment, révèlent que, alors qu'ils attendaient leur premier enfant, il y a eu des conversations sur la couleur de peau qu'aurait cet enfant à naître. C'est terrible pour Buckingham d'être associé, et sans que personne ne soit cité, à du racisme.
Aux États-Unis toujours, le procès de Derek Chauvin s'ouvre aujourd'hui. Ce policier blanc est accusé d'avoir tué George Floyd, un homme noir, en mai dernier lors d'une interpellation. Hier encore, des milliers de personnes ont défilé à Minneapolis pour réclamer justice. Le procès se tient sous haute sécurité.
7h33, sur le front du Covid, la vaccination tourne à plein régime.
585 000 Français vaccinés depuis vendredi, c'est ce qu'a tweeté Jean Castex hier soir. Cela dit, les vaccinodromes installés pour le week-end ont vocation à disparaître. Olivier Véran l'a redit hier lors d'un déplacement à Boulogne-sur-Mer.
Moi, je ne voulais pas qu'à l'échelle du pays, nous ayons 40 ou 50 centres géants. Donc le choix que nous avons fait, c'est le choix de multiplier les centres de vaccination partout, là où cela faisait sens. Très vite, les pharmaciens vont rentrer, ainsi que les infirmières libérales, ainsi que les sages-femmes, dans cette vaccination. Et là où ça fera sens, eh bien, il y aura des centres qui pourront compléter les dispositifs.
Les ministres de la Santé, Olivier Véran, les élus locaux réclament pourtant le maintien de ces centres à l'image de Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne.
J'attends du ministre qu'il puisse y avoir un effort au long cours. Continue de maintenir des doses, d'assurer des doses. Et si nous avons les doses, nous aurons ce centre de vaccination. Les élus sont là, les volontaires sont là, la population attend. Il faut des doses et s'il y a des doses, eh bien, il faut des lieux pour vacciner.
Propos recueillis pour RTL par Antoine de Carne. Près de 5 mois après la mort de Samuel Paty, on découvre aujourd'hui que tout est parti du mensonge d'une collégienne. Elle avait accusé le professeur d'avoir fait sortir les musulmans de sa classe pour montrer les caricatures de Charlie Hebdo, récit qui s'est enflammé ensuite sur les réseaux sociaux et qui a abouti à la décapitation du professeur d'histoire. En fait, cette jeune fille a fini par avouer, elle était absente ce jour-là. Et puis beaucoup de tristesse et de stupeur ce matin dans la classe politique après le décès d'Olivier Dassault. Le député LR de l'Oise est mort hier soir dans le crash de son hélicoptère près de Deauville. Il avait 69 ans. Olivier Dassault était le fils de Serge Dassault. C'était un capitaine d'industrie, également commandant de réserve de l'armée de l'air. Hommage appuyé du président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad.
C'est un homme engagé pour nos entreprises, optimiste, qui allait de l'avant. Puis c'est quelqu'un aussi qui n'était pas sectaire, mais qui était très ouvert aux autres. Quelqu'un qui était un amoureux de la vie, à la fois photographe, industriel, pilote, très respecté, très écouté. Quand il prenait la parole dans notre groupe, eh bien, on entendait les mouches voler parce que tout le monde écoutait ce qu'Olivier Dassault avait à nous dire.
Damien Abad, joint pour RTL par Vincent Derosier. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire après cet accident d'hélicoptère.
C'était donc le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une, Isabelle.
Oui, ce matin, on va parler de cette nouvelle appli pour faire des photos moches sans retouche à l'ancienne.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 7h35. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Alors, 1 kilo de tomates à 1 million, eh bien ça existe.
Oui, c'est à Caracas, au Venezuela, le pays où pour 1 million, t'as plus rien. C'est l'hyperinflation et ses dégâts, je vous raconte ça dans un instant.
Et 1 million, c'est le nouveau billet de Bolivar.
Absolument.
Faut le faire. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Angléco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
À cause de l'hyperinflation, il n'y a même plus de façon de la qualifier, le Venezuela met en circulation ce matin un joli billet d'1 million de bolivars.
Oui, 1 million de bolivars, c'est même pas 50 centimes d'euros. Hein. À cause de l'incroyable inflation qui sévit dans cet état pétrolier de l'Amérique du Sud, 3000% de hausse des prix en 2020, 10 000% en 2019 et pas loin de 50% par mois en ce moment. Au point que la monnaie locale n'est presque plus utilisée pour les transactions. Elle a été remplacée par le dollar américain et par le troc, c'est-à-dire le paiement avec des objets en lieu et place d'argent.
Mais comment arrive-t-on à des désordres monétaires aussi graves dans un pays ?
Il y a deux causes. D'abord, des pénuries de tout, à cause de la gestion calamiteuse du gouvernement et puis des sanctions que les États-Unis imposent à ce pays pseudo-socialiste, et puis une planche à billets qui tourne à fond, à plein régime, pour financer les dépenses de l'État, alors que l'économie s'effondre. Un paradoxe, hein, alors que le Venezuela possède de très larges réserves de pétrole. Paradoxe qui s'explique par l'incompétence des dirigeants et la corruption. est-ce que ça serait déjà arrivé chez nous?
Oui.
C'est la question que vous posez. Bah, jamais à ce point, en fait. La seule expérience qui s'en approche en France, c'était l'immédiate après-guerre, où on avait connu 40 à 45% par an, pendant 3 ans. Là aussi, à cause des pénuries et de la création d'argent massive au sortir du conflit. En Europe, c'est en Allemagne que l'hyperinflation a sévi dans les années 20. Stefan Zweig, vous savez que c'est un écrivain autrichien, raconte qu'à cette époque, il avait rendez-vous avec son éditeur dans un café pour négocier les droits d'auteur de son dernier livre. C'était l'écrivain le plus connu du monde à l'époque. Hein. Donc les droits d'auteur, ça devait être quelque chose. Le temps qu'il rentre chez lui ensuite, le montant qu'il avait négocié ne correspondait plus qu'au prix de l'affranchissement de l'enveloppe dans laquelle il allait mettre son manuscrit pour l'envoyer à l'éditeur.
Alors certains économistes s'alarment aujourd'hui du risque d'inflation à cause des plans de relance massifs qui ont été déclenchés aussi.
C'est vrai, ce week-end a été adopté le gigantesque plan de relance américain. C'est 1700 milliards d'euros. C'est un chèque de 1200 euros pour quasiment tous les ménages américains. Le tout financé intégralement par de l'emprunt, largement auprès de la Banque centrale, c'est-à-dire de la création d'argent. Et puis c'est le cas aussi en Europe, au Royaume-Uni, au Japon. Il est donc tout à fait possible que cela fasse repartir l'inflation dans les années qui viennent.
Mais un peu d'inflation, c'est bon ou c'est mauvais pour l'économie?
Oui, en fait la difficulté, c'est de ne faire qu'un peu d'inflation. On n'a pas de levier, hein, on ne contrôle pas précisément ces phénomènes qui peuvent s'emballer. Mais c'est vrai que 5% par an, ça ne serait pas forcément un problème. Ça permettrait de réduire assez vite la valeur de la dette accumulée dans la zone euro. Oui. Exactement comme on l'a fait après la Seconde Guerre mondiale, où c'est l'inflation qui nous a permis de nous débarrasser de la dette du conflit. L'inflation, c'est plutôt favorable à ceux qui sont endettés, parce que ça réduit le poids des engagements du passé par rapport aux revenus du présent qui progressent grâce à la hausse des prix. Et c'est plutôt mécaniquement défavorable à l'épargnant, parce que ça réduit aussi, dans le même temps, la valeur de l'argent accumulé. Comme pour tout phénomène économique, il y a des gagnants et des perdants de l'inflation.
Bon, je vous propose de prendre un petit bolivar et d'aller vous offrir un café.
Un bon bolivar de café.
Un bon bolivar de café dans les meilleurs délais. Merci beaucoup François Langlais. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Laetitia Saint-Paul, députée LREM du Maine-et-Loire, vice-présidente de l'Assemblée nationale et officier de l'armée de terre en détachement. En ce jour, nous célébrons les droits des femmes. Nous verrons comment elle a évolué dans ces univers très masculins, armée et politique.
A tout de suite avec Laetitia Saint-Paul.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la députée et capitaine de l'armée de terre, Laetitia Saint-Paul.
Bonjour Laetitia Saint-Paul.
Bonjour madame.
Bonjour capitaine. Vous êtes la première militaire d'active à siéger à l'Assemblée nationale depuis 1918. Vous aviez 200 hommes sous vos ordres et vous avez été élue députée un 18 juin, ça ne s'invente pas. Vous publiez donc « Mission tenir de l'armée à l'Assemblée nationale » coécrit avec Céline Cabour aux éditions Lattès. Avant de parler de votre parcours, permettez-moi de revenir sur l'actualité avec le coup d'accélérateur de la campagne de vaccination contre le Covid. On a vacciné dimanche, hier, autant que toute la semaine passée. 500 000 de vaccinés en un week-end. On n'aurait pas pu faire ça plus tôt, bon sang ? On n'aurait pas
J'étais spécialiste de logistique.
Et je pense que c'est pour ça que je vous posais la question.
Et je pense que tout le monde peut se représenter la complexité logistique de la chaîne vaccinale. Nous avons 3 vaccins différents, qui ont des conditions de stockage différentes, qui ont des effets secondaires différents et qui ne sont pas efficaces de la même manière selon les classes d'âge. Donc c'était un vrai casse-tête logistique, en plus d'importation. Donc après, il a fallu déployer toute la chaîne de l'arrivée jusqu'à destination. Et pour vacciner en masse, encore faut-il avoir des vaccins en masse. Et aussi, là, c'était le cas. Et comme à l'armée, l'opérationnel prime, eh bien, toutes les forces vives sont et seront déployées.
Mais on est en retard d'un point de vue, on a été en retard d'un point de vue logistique. Vous étiez officier en charge des explosifs. En plus, vous savez de quoi vous parlez. Ça aurait dû être une priorité, la logistique. Oui. Regardez Mario Draghi, le président du Conseil italien, il vient de nommer un général réputé chargé de la logistique au sein des forces armées italiennes qui occupe là le poste de commissaire urgence Covid. Ça aurait dû être la priorité.
Alors dans les forces armées, il y a aussi ce mythe comme quoi la logistique suivra, que les combattants en première ligne sont l'essentiel puisque c'est eux qui mèneront le combat. Et la logistique est souvent négligée. Et effectivement, pour que les vaccins arrivent jusqu'au plus bas échelon, jusqu'au plus près de la population, eh bien, il faut que cette chaîne logistique soit efficace. Donc, je ne vais pas vous contredire, la logistique est souvent la clé.
Il faut des vaccinodromes, Laetitia Saint-Paul. Est-ce que c'est important d'avoir des gros barnums où on vienne vacciner en masse maintenant ?
Aujourd'hui, pour combattre ce fléau qu'est le Covid, il faut de la masse. C'est la clé de la réussite et de notre résilience. Donc oui, il faut de la masse et il faut que toutes les forces vives puissent vacciner médecins, infirmières, sages-femmes, pharmaciens. Tous ceux qui ont la compétence pour le faire doivent maintenant le faire.
Et est-ce qu'il faut obliger les soignants à se faire vacciner ? Ça, c'est un débat chez vous. Est-ce qu'il faut les obliger ?
Je vais vous parler de l'armée. En fait, les militaires, pour la grippe saisonnière, nous étions vaccinés une fois tous les 3 ans, par tiers, pour qu'il y ait une continuité stratégique de notre action en permanence. Et en fait, en tant que militaire, et vu la charge qui pesait sur nos épaules, on ne se posait pas la question. Donc effectivement, là aujourd'hui, la continuité de la nation passe par la vaccination des soignants. Et je les encourage très fortement à le faire. Et le message a été entendu.
Oui.
Et je les, en remercie parce que souvent dans les conflits, ce sont les militaires qui sont la clé de la sécurité. Aujourd'hui, c'est eux. Et je les en remercie vivement pour tout ce qu'ils font et pour s'inscrire dans cette démarche.
Laetitia Saint-Paul, vous êtes passée d'un univers où les femmes ne représentent que 15% des effectifs, l'armée, à un univers où il y a désormais plus de 38% des femmes. Ça, c'est l'Assemblée. Ça vous a fait quel effet de travailler avec autant de femmes d'un coup ?
Je suis tellement heureuse de plus me poser la question d'être une femme. Et je remercie celles qui m'ont précédée, parce que clairement, à l'armée, je fais partie de celles qui ont fait la trace. Et ce n'est pas le cas en politique. Le travail avait été fait avant, des mentalités, de représentativité. Et j'arrive pour la première fois de l'histoire, et ça, on n'en parle plus du tout, de ce petit miracle effectué par Emmanuel Macron. J'arrive au sein d'un groupe majoritaire paritaire. Et je crois que c'est important de le rappeler. En fait, maintenant, ça paraît normal. Les grandes avancées, très rapidement, paraissent évidentes.
Alors, c'est pas tout à fait encore juste dans l'équipe de conseillers du président Macron. Alors, c'est vrai que le gouvernement est paritaire, l'Assemblée du côté de l'LREM aussi. Mais dans l'équipe de conseillers du président Macron, il y a 12 femmes et un homme. Il y a 12 hommes et une femme, pardon.
Je suis ravie de cette excellente nouvelle. Merci. Donc, quand vous avez, je plaisante, quand vous avez dit 12 femmes et un homme, je crois que quand on ne puisse pas dans 100% des forces vives et qu'on ne puisse que dans 50% de ces forces vives, forcément, on passe à côté de talent.
Il passe à côté de talent, donc, le président ?
Eh bien, effectivement, puisque visiblement, 12 hommes et une femme, ils passent nécessairement à côté de talent. Mais j'oublie pas tout ce qu'il a fait pour nous et le fait que si je suis là aujourd'hui à m'exprimer auprès de vous, c'est bien parce qu'il est venu chercher toutes les forces vives du pays et notre groupe politique est complètement paritaire.
Alors je voulais revenir à votre parcours dans l'armée. Dans votre livre, vous racontez une scène qui vous a choquée. Lorsque vous étiez enceinte de votre premier enfant, vous commandiez votre compagnie et votre général vous a dit « mais vous n'allez pas donner vos ordres dans cet état-là ». Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?
Je lui ai répondu, je suis tellement certaine de ma légitimité que mes ordres, s'il fallait que je les donne en maillot de bain, je les donnerais en maillot de bain.
Et donc ?
Ouais, il a tourné les talons, je pense qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui tienne tête. Et c'est ce qu'on est obligé de faire, les femmes. Souvent, on est obligé de s'accorder davantage de liberté. Et en fait, j'ai même dressé une cartographie complète de la misogynie. Je suis amusée à le faire parce qu'en fait, c'est toujours à nous qu'on demande d'avoir... de garder nos nerfs, d'avoir une réponse appropriée. Donc j'ai tout hiérarchisé et ça m'aide dans mes fonctions de vice-présidente. Donc je commence en haut de la chaîne alimentaire par le misanthrope. Bon, lui, il n'aime pas les femmes par défaut, puisque de toute façon, il n'aime pas le genre humain. Le misogyne, le macho, le séducteur, le paternaliste. Et au niveau zéro de la misogynie, la grande majorité des hommes qui sont des gens bien.
Vous êtes féministe ?
Je suis féministe, mais pas ce féminisme victimaire et conflictuel. Je crois vraiment que nous avons tout intérêt à marquer la complémentarité entre les femmes et les hommes et pas entrer en conflictualité. Et c'est ce féminisme que je porte et cette idée que je ne supporte pas de passer à côté de talents, mais que ce soit des talents masculins, féminins, quels qu'ils soient en fait. Ces talents éteints à cause de préjugés.
Ça vous dérange, hein, ce néo-féminisme, celles qui disent qu'il faut être en lutte contre la domination masculine ? C'est ça qui vous dérange ?
Oui, je me reconnais pas du tout dans ce féminisme-là et je crois pas que la majorité des Français s'y reconnaissent.
C'est minoritaire, pensez-vous ?
Je pense que c'est minoritaire.
Il y a une femme qui vous a inspiré ?
Alors, je l'explique aussi dans mon livre, c'est ce que j'ai déploré, manquer de modèle. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cet effort de témoignage. Simone Veil fait partie de ces femmes politiques qui m'ont inspirée. Et la première femme pilote de chasse de notre histoire aussi, qui a eu un destin tragique puisqu'elle est morte très jeune d'un cancer. Et elle a été une grande source d'inspiration.
Alors Laetitia Saint-Paul, les Français font confiance à l'armée et aux militaires à 80%. Le taux de confiance envers les députés, c'est au mieux 20%. Que diable êtes-vous allé faire dans cette galère ?
Eh bien, c'est aussi ce que j'explique dans mon livre « Mission tenir », qu'il y a une absolue continuité entre mon engagement militaire et mon engagement politique au service du bien commun. Et les valeurs qui m'animaient en tant que militaire sont exactement les mêmes aujourd'hui, de courage, de dépassement de soi, de sens du bien commun, de collectif et de promotion de la France.
Parce du que... collectif ?
Oui.
Vous êtes toujours sûr qu'il y a du collectif en politique ?
Mais en tout cas, j'œuvre en ce sens et c'est pas parce qu'il y a des différences qu'il ne peut pas avoir de collectif et aussi de promotion de la France et ses valeurs à travers le monde. Et c'est ce qui m'anime en tant que vice-présidente aux affaires internationales.
Mais la différence entre le monde militaire et le monde politique, il se joue sur quel tableau selon vous ?
Alors, l'ennemi n'est pas le même, le terrain n'est pas le même, les modes d'action ne sont pas les mêmes, mais au final... Au final, le but a beaucoup de points communs.
J'ai une question sur l'actualité internationale. Cela fait 10 ans que le conflit en Syrie a commencé. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux, Laetitia Saint-Paul. On y voit deux femmes djihadistes qui s'expriment en français et qui disent « La Syrie, le djihad, c'était une aventure comme d'autres vont en Inde. Nous, c'était pas top cette aventure, donc maintenant on veut rentrer à la maison. » On doit faire rentrer ces gens-là en France ?
Absolument pas. Moi, je ne suis pas du tout pour le retour des djihadistes. Dans la vie, il faut assumer ses actes et ses conséquences. Et non, on ne part pas faire le djihad comme on part en voyage. Ce n'est pas une expérience comme une autre. Et moi, j'entends bien que ces femmes soient jugées sur place, là où elles ont commis leurs crimes.
Votre avenir, vous le voyez comment ? En politique ? Dans l'armée ?
Alors, je suis vraiment... passionnée par ce que je fais et j'ai la foi absolue en l'action politique. Ça ne s'est pas fané au bout de 4 ans de mandat et j'ai l'intention de me représenter l'an prochain, en 2022.
Et pas être ministre ?
C'est pas l'ambition que je porte. J'ai envie d'être un bon député pour ma terre d'élection, le Maine-et-Loire et en particulier le Saumurois. Et j'adore mes fonctions de vice-présidente et cet aspect international. En fait, quand on est député, le champ des possibles est infini entre le local, le national et l'international. C'est vraiment une mission passionnante.
Merci beaucoup Laetitia Saint-Paul. Je rappelle votre livre « Mission tenir de l'armée à l'Assemblée nationale » aux éditions Lattès. Merci beaucoup.
Merci.
Grâce à Emmanuel Macron, je siège dans un groupe parfaitement paritaire à l'Assemblée. Vient de nous dire notamment votre invitée Laetitia Saint-Paul. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver dans le site, sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous serons avec Cyprien Sini qui surfe sur l'actualité comme chaque jour. A tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Excusez-nous, nous rions de bon cœur. Bon, je vous laisse surfer tout seul comme un grand maintenant.
Bah oui, avec voilà. La journée des droits des femmes. Bah,
évidemment.
Alors, rigolez
débrouillez-vous,
pas,
mon vieux.
On mais parlait oui. De l'OM hier soir. Hein,
oui.
Et alors, attention, j'aime autant vous prévenir, mesdames, messieurs, on part de loin.
La femme, elle a été créée pour être à la baraque, élever les mômes, et puis s'occuper des enfants, surtout.
Ouais, voilà. Puis de très loin, même. Hein.
Voilà une nouvelle journée de bureau qui commence. Mais que peut bien faire ma femme pour tuer le temps pendant que moi je travaille, voyons. Évidemment, il y a le ménage, bien sûr. Les courses, c'est vrai.
Oui, ou tout ce qui touche à l'électroménager, hein, car...
Moulinex libère la femme.
Évidemment, la libération passe par le lave-vaisselle. Pourtant, on progresse, mais il y a toujours un mais. 1971, les soldats femmes vont pouvoir défiler le 14 juillet. Mais...
ils n'ont pas le même pas.
Vous le savez, le pas féminin est plus court de quelques centimètres du pas masculin. Il s'agira donc pour ces jeunes femmes de presser le pas pour ne pas retarder l'ensemble du défi.
Mais on se bouge. C'est toujours un problème, hein, cette histoire de femmes. Faut dire qu'on entendait de sacrés discours à la télé. Tenez, Claude François en 77.
Les Claudettes viennent d'interpréter une chanson. Alors je veux savoir qui a composé les paroles et la musique.
Les deux, c'est moi, mais la musique, c'est peut-être un peu plus compliqué que les paroles qui, elles, sont quand même très limitées. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu écrire des tas de choses, mais elles ne retiennent que deux ou trois mots en général, maximum.
Joli, Clo-Clo, bien vu. Et alors, 10 ans plus tard, en 87, ce débat sur le cyclisme féminin, qui paraît aujourd'hui assez surréaliste, entre le coureur Marc Madio et Jeannie Longo.
Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout. Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous, vous êtes moche, je suis désolé.
Non, vous allez un peu loin, elle attaquait directement Jeannie Longo.
Non, j'attaque en général le cyclisme féminin. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis.
Eh oui, incroyable. Hein.
Non, j'arrive pas à le croire.
Ah bah si, tout ça est vrai. Jusqu'en 1991 et cette révolution.
Bonsoir, une grande première dans l'histoire de la République française, une femme va diriger le gouvernement, Edith Cresson.
Je ne suis pas misogyne. Hein.
Alors, le non, gars non, qui mais... commence par « je ne suis pas misogyne, mais... » Hein, je ne sais pas vous, mais moi je le sens bien. On y va.
Je ne suis pas misogyne. Hein. Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien chez elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants.
Voilà. Hein. Mais bon, tout ça, c'est du passé. Sauf qu'aujourd'hui, enfin, hier, au grand jury...
Sur 13 membres du cabinet le plus proche d'Emmanuel Macron, Elisabeth Moreno, une femme.
Bah oui. Je lui ai dit, monsieur le président, vous ne donnez pas l'exemple.
Et pourtant...
L'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un sujet absolument fondamental. On a besoin de femmes qui changent notre vie politique.
Alors c'est vrai qu'on part de très loin, mais c'est vrai aussi qu'on est loin d'être arrivé.
Oui, on vous retrouve ce soir à 18h avec Thomas Soto.
Le Monde de demain.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, un grand déballage et les murs de Buckingham qui tremblent.
Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas déçu les amateurs de règlement de compte. Nous serons à Londres dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, deux profs de Sciences Po Grenoble accusés d'islamophobie par des étudiants. Le parquet ouvre une enquête. Et puis la vaccination en entreprise qui accélère. Les médecins du travail entrent dans la danse.
La météo, Louis Baudin.
On va encore une fois la France coupée en deux. On trace un trait entre La Rochelle et Besançon. Au nord, ça sera encore très ensoleillé. Quelques nuages quand même près de la Manche. Au sud, encore des nuages avec quelques averses, notamment près des Pyrénées, sur les Alpes, sous forme de pluie, de quelques flocons, pas de grosses quantités. Plus de soleil près de la Méditerranée. Et puis côté température, après de fortes gelées encore ce matin dans le nord, 7 à 10 degrés cet après-midi dans la moitié nord. C'est toujours un peu en dessous des moyennes de saison. 11 à 16 degrés dans le sud.
Merci Louis.
RTL Matin.
Alors certes, la monarchie britannique en a vu d'autres, mais cette interview devrait laisser des traces. Harry et Meghan, face à la journaliste star américaine Oprah Winfrey sur CBS, n'ont pas retenu leur coup contre la famille royale. 2 heures de grand déballage, extrait.
Il y avait des discussions pour nous dire il n'y aura pas de protection, ou il n'aura pas le titre de prince, et puis aussi cette question de savoir à quel point sa peau serait noire à sa naissance. Quoi ? Il y a une conversation avec vous, avec Harry, sur sa couleur de peau ? Oui, oui, et sur les conséquences que ça pourrait avoir. Je ne voulais tout simplement plus être en vie. C'était une pensée constante, très claire, réelle et effrayante.
J'ai été piégé par un système, comme le reste de ma famille. Mon père et mon frère sont aussi piégés.
Voilà, vous entendez notamment ces soupçons de racisme contre le petit Archie, le premier enfant du couple. Accusation de racisme visant la famille royale d'Angleterre. À 325 000 dollars, les 30 secondes de pub pendant l'interview, ces confessions valaient de l'or. Qu'en dit-on à Londres, Marie Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez devant le palais de Buckingham où l'on peut s'attendre à un flegme très britannique de la part de la famille royale.
Ben oui, le palais devrait observer un silence digne. Comme en son habitude, on s'attend à ce que Buckingham Palace ne prolonge pas la polémique en répondant aux accusations portées par le couple. D'autant que la reine est déjà très occupée aujourd'hui, puisque c'est la journée du Commonwealth, une union des nations regroupant surtout les anciens pays de l'Empire britannique, une organisation multiculturelle à laquelle la reine est très attachée. Elisabeth II a donc un agenda très chargé pour montrer que la monarchie est active. Et le message un peu en plus, hein, c'est que la couronne va au-delà des querelles familiales. Mais chaque membre de la famille royale peut répondre aux accusations qui sont portées contre lui ou contre elle. Le prince Harry, par exemple, accuse son père de l'avoir un peu abandonné, mais le prince Charles a appris avec Diana qu'il ne valait mieux pas mettre en cause publiquement un membre de la famille royale qui serait plus populaire que lui. Kate et William, de leur côté, sont très actifs dans leur soutien au personnel soignant face à la crise sanitaire et semblent aussi vouloir se concentrer sur leur rôle.
Autrement dit, un jour comme un autre au palais de Buckingham. Merci beaucoup Marie Billon, en direct de Londres pour RTL.
8h04, la tension monte à Sciences Po Grenoble.
Une enquête est ouverte. Deux profs sont accusés par des étudiants d'islamophobie. Les noms des deux enseignants ont été placardés sur les murs avec cette phrase « Des fascistes dans nos amphis ». La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui avait créé la polémique il y a quelques semaines en évoquant l'islamo-gauchisme dans les universités, dénonce des tentatives d'intimidation et de pression. On fait le point avec vous, Raphaël Vantard.
Tout part en fait d'un échange de courrier électronique en décembre dernier entre des étudiants et plusieurs enseignants de Sciences Po Grenoble. L'un d'eux, un professeur d'allemand, remet en cause l'existence d'islamophobie en France, ajoutant sans détour une certaine aversion pour cette religion. Les propos suscitent l'indignation de beaucoup d'étudiants, mais aussi d'enseignants. Les choses s'enveniment ensuite lorsqu'un autre professeur de sociologie, cette fois, prend la défense de son collègue d'allemand. Son cours sur l'islam en France est à son tour montré du doigt par le syndicat étudiant majoritaire de l'établissement, l'Union syndicale de Sciences Po Grenoble. Et la tension monte encore d'un cran la semaine dernière, lorsque l'enseignant en question demande aux étudiants syndiqués de ne plus venir à son cours. Des tags avec le nom des deux professeurs apparaissent alors sur le mur de l'Institut d'études politiques de Grenoble, les accusant d'islamophobie. Le parquet de Grenoble se saisit de l'affaire. Il vient d'ouvrir une enquête pour injure publique. Une réunion de crise doit se tenir ce matin avec la direction et tous les professeurs de Sciences Po Grenoble.
Raphaël Vantard, consternation dans l'enquête sur la mort de Samuel Paty. La collégienne qui avait dénoncé le cours sur les caricatures de Charlie Hebdo a finalement avoué qu'elle n'était même pas présente en classe ce jour-là. Le père de l'adolescente qui avait menacé l'enseignant de représailles sur les réseaux sociaux est lui toujours incarcéré. Samuel Paty avait été décapité peu après être sorti de son collège de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier. Au lendemain du crash de l'hélicoptère qui a coûté la vie à Olivier Dassault et à son pilote, le bureau enquête et analyse se rend sur place aujourd'hui près de Deauville pour tenter de comprendre l'origine de l'accident. L'appareil s'est écrasé peu après le décollage. Le député LR de l'Oise, Olivier Dassault, fils aîné de Serge Dassault, avait 69 ans.
Dans un instant, nous verrons où en est l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les hommes. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Les premières de corvée appelées à faire grève aujourd'hui.
À l'appel d'une quarantaine d'organisations féministes qui estiment que les femmes sont toujours moins bien traitées que les hommes. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce que le 8 mars est depuis 44 ans maintenant la journée des droits des femmes. Alors, il y a quand même eu depuis des avancées, notamment cet outil qui permet depuis 3 ans de mesurer l'égalité entre les deux sexes en entreprise. C'est l'index de l'égalité professionnelle qui compare les rémunérations. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Alors, vous l'avez regardé de près, cet index. Bilan, il y a encore du boulot.
Oui, la note moyenne à l'index de l'égalité a légèrement augmenté. Mais si on fait le compte ce matin, à peine plus de la moitié des entreprises a obtenu 75 points sur 100 cette année. 75 sur 100, c'est la base, c'est le minimum pour ne pas avoir d'amende. Pire, depuis 3 ans que l'index est publié dans les plus grosses entreprises, certaines s'obstinent à rester mauvaises élèves. Elles sont 56 entreprises à conserver des notes particulièrement faibles. Parmi elles, on peut citer Foncia ou Monsieur Bricolage. Alors, vous savez, il y a plusieurs critères qui composent l'index. Les écarts de salaire, les promotions, etc. Les deux critères où les entreprises, même les meilleures, doivent encore travailler sont les plus hautes rémunérations. 4 entreprises sur 10 ont au mieux une femme parmi les 10 plus hautes rémunérations. Au pire, 0 femme très bien payée. Et il y a un second critère qui ne va pas du tout, c'est ce qui se passe quand une femme revient de congé maternité. La loi, c'est qu'au retour de congé mat, vous êtes augmenté. Eh bien, 171 entreprises sont en infraction vis-à-vis de la loi et ce depuis 3 ans. Si jamais vous n'étiez pas convaincu qu'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir, je termine par ce chiffre. Aujourd'hui, seuls 2% des entreprises obtiennent 100% à l'index, c'est-à-dire traitent réellement les femmes et les hommes à égalité professionnelle.
Merci beaucoup, Anaïs Bouissou.
Et à 8h20, nous y reviendrons avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui viendra dévoiler ce tout dernier index de l'égalité professionnelle en entreprise. Plus d'un demi-million de Français vaccinés depuis vendredi, c'est un record.
Des centres avaient été ouverts exceptionnellement pour accueillir du monde, un élan qui ne va pas s'arrêter là, promet le gouvernement. La vaccination en entreprise va notamment monter en puissance dès aujourd'hui. Comment cela va se passer? Eh bien, on va tout vous expliquer avec la brigade RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Alors, qui est concerné?
Bien, comme en ville, hein, les plus de 50 ans qui présentent des facteurs de risque, ils recevront le vaccin AstraZeneca.
Et comment fait-on pour prendre rendez-vous?
Alors, normalement, votre entreprise vous envoie un message pour vous indiquer la marche à suivre, vous incitant à contacter médecin du travail ou infirmière pour vous signaler et trouver un créneau. Si le médecin du travail vous connaît depuis longtemps et qu'il sait que vous correspondez aux critères, il a le droit de vous contacter directement pour vous proposer un rendez-vous.
Et le rendez-vous se passe où?
Plutôt dans le centre de médecine du travail, recommande la Direction générale du travail pour plus de confidentialité. Votre entreprise n'a pas à être au courant, elle n'a pas à savoir que vous souffrez de comorbidité. Vous pouvez y aller sur votre temps de travail sans préciser que c'est pour la vaccination, bien sûr. Et dernier point, c'est gratuit.
Alors, question importante, Sophie, comment les médecins du travail récupèrent-ils leurs doses?
Comme les médecins généralistes, en passant commande auprès des pharmaciens, en espérant qu'ils s'en soient occupés la semaine dernière, car une note urgente de la Direction générale de la santé, publiée hier soir à 22h, change les règles pour cette semaine. 28 000 flacons d'Astra sont disponibles pour le circuit de ville pour les jours qui viennent. Il faut donc gérer la pénurie. Résultat, seuls les pharmaciens pourront réserver des doses, pas les médecins. Voilà qui risque de provoquer la furie de tous ceux qui avaient commencé à s'organiser, contacter les patients, bloquer des créneaux de rendez-vous. La colère gronde déjà sur les réseaux sociaux. Autre info d'hier soir, près de 7000 officines situées dans les 18 départements où le virus circule le plus vont exceptionnellement recevoir un flacon d'Astra ce jeudi et ce vendredi. Elles pourront donc commencer à vacciner avant le 15 mars près de 70 000 personnes.
La brigade RTL, signée Sophie Orange. En bref, à l'étranger, aux États-Unis, le début du procès à Minneapolis de Derek Chauvin, ce policier blanc accusé d'avoir étouffé à mort dans cette ville un Afro-Américain, George Floyd. C'était il y a 9 mois. Plusieurs milliers de personnes ont défilé hier dans les rues pour réclamer justice.
On en vient à ce virus qui frappe cette fois les chevaux.
C'est une maladie très contagieuse, la rhinopneumonie, qui frappe, comme son nom l'indique, les voies respiratoires des chevaux. Des animaux sont morts en Espagne et plusieurs foyers ont été confirmés en France, notamment en Seine-et-Marne, où vous vous êtes rendu pour RTL, Benjamin Boucriche.
Oui, c'est un peu comme le Covid-19, mais pour les chevaux, un virus très facilement transmissible et potentiellement fatal. Pascal Mullet-Kerner est le responsable d'un centre équestre en Seine-et-Marne.
On ne partage absolument pas les équipements, on ne caresse pas le cheval d'à côté. On ne sait jamais, parce que même à l'intérieur de la même de l'écurie, imaginez que là j'ai un cheval qui est porteur sain. Vous voyez ce que je veux dire? La même chose que la Covid. Il peut être porteur sain et avoir la rhino.
Pour l'instant, aucun cas n'est déclaré dans cette écurie. Mais Elisabeth Simard, la responsable du Poney Club, est sur le qui-vive.
Si j'en ai un qui est touché, il y en a plein d'autres qui vont être contaminés et perdre nos chevaux, ça serait une catastrophe, sans compter qu'évidemment on serait complètement fermé en quarantaine.
Les enfants, eux, craignent de perdre leur cheval préféré. Nokomi, 15 ans, vient au centre équestre une fois par semaine.
Ça fait mal au cœur et surtout ça fait peur parce que on se rend compte que c'est très grave et on n'a pas envie de perdre les chevaux à cause d'une épidémie. On a déjà le coronavirus, alors si en plus il y a une épidémie qui touche les chevaux, c'est inquiétant, quoi.
Dans cette écurie, on reste positif. Tous les bons réflexes appris grâce à l'épidémie de Covid serviront pour lutter contre cette nouvelle maladie.
Reportage signé Benjamin Boucriche. En football, le cauchemar continue pour l'OM, éliminé de la Coupe de France par des amateurs, des vrais amateurs, ceux du club du Canet en Roussillon, 2-1. Qualification aussi de Lille, de Châteaubriand et d'Angers.
C'était donc le journal de Jérôme Florin. Dans un instant, on retrouve Jean-Mathieu Pernin dans notre bureau de vérification des informations.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h14, nous allons traquer les fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, la France va-t-elle offrir 100 000 doses de vaccins anti-Covid à la République tchèque?
Oui, c'est vrai que ça paraît bizarre, hein, comme ça. On n'a pas de vaccin, mais on en offre déjà. Voilà. Il n'y en a que pour les Tchèques, mais pas pour nous. Pas de rendez-vous pour le vaccin en France, peut-être à Prague. Voilà, c'est une inquiétude qu'on peut lire sur Twitter et notamment relayée par la tête de liste du Rassemblement National en Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul, qui parle même de voyage sans fin en Absurdistan. Une vraie poésie. Alors la République tchèque est un des pays les plus touché actuellement, obligé comme ce week-end d'envoyer des patients en Allemagne, en Suisse et en Pologne. Il faut vacciner encore plus et vite. Voilà pourquoi le 25 février dernier, le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, explique, je cite, « Nous essayons depuis quelque temps de récupérer des doses supplémentaires de vaccins. Nous avons reçu un don de la part d'Israël et la France nous a maintenant promis 100 000 doses d'ici au 15 mars. » Alors en réalité, comme explique le journal Le Monde, ces 100 000 doses ne sont pas envoyées par la France ou prélevées directement sur les stocks nationaux. Elles correspondent en fait à des doses supplémentaires reçues par l'Union européenne en mars qui vont être attribuées à trois pays, dont la République tchèque, et pas de privilège tchèque.
En fait, dès l'arrivée des vaccins, un mécanisme de solidarité entre pays de l'Union européenne a été mis en place,
exactement,
c'est ça ?
Voilà, les commandes vaccins ont été réalisées par la Commission européenne. L'idée était de payer moins cher, une commande de gros à 27, et de répartir les doses en fonction de la population. Mais les pays peuvent demander des doses supplémentaires non utilisées par les autres, ce que fait notamment la France. Ainsi, la République tchèque va recevoir 100 000 doses de l'Union européenne, un supplément auquel la France va se joindre. Le 5 mars, la radio publique tchèque explique assez précisément en chiffres, la France va faire don de 15 000 doses du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à la République tchèque, et ce, en complément des 100 000 doses du vaccin Pfizer qui seront laissées prioritairement à sa disposition par les États membres dans le cadre du mécanisme de solidarité européenne.
Bon, alors, par définition, c'est évidemment un geste politique de l'Union européenne.
Ah bah complètement. Le vaccin est devenu une arme politique face à la lenteur de leur déploiement. De nombreux pays de l'Est, comme la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, font appel aux vaccins russes et chinois, alors qu'ils ne sont pas approuvés encore par l'Europe. Une perte d'influence de la Commission européenne. Donc pas de panique, si vous voyez un diplomate avec une seringue dans la poche, c'est normal, il fait de la politique. Hein.
Bon, dans un instant, vous allez croiser Michel Siemes sans seringue. Allez, à tout de suite.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Siemes.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, en cette journée internationale des droits de la femme, c'est à elles que vous vous adressez, aux femmes, notamment à celles qui s'inquiètent de leur sexualité à l'approche de la ménopause.
Oui, je vais les rassurer d'entrée. Hein. Ah. Pas de panique, mesdames, la ménopause ne signifie pas la fin de votre vie sexuelle. Parfois, c'est même l'inverse qui se produit. Débarrasser des contraintes liées à la contraception, libérer des servitudes qu'imposait la présence à la maison des enfants qui ont grandi et qui sont partis faire leur vie ailleurs. Beaucoup de femmes, pour peu que leur couple soit solides, repartent pour un tour, si vous voyez ce que je veux dire.
Ben je vois en effet à peu près de quoi vous voulez nous parler, mais on ne va pas se mentir, lorsque survient la ménopause, il se passe des choses sur le plan physiologique aussi.
Oui, dès lors qu'une femme n'a plus d'ovulation, elle ne connaît plus ce pic hormonal qui, au milieu de son cycle menstruel, booste son désir sexuel. Alors ça, c'est effectivement une réalité qui se traduit concrètement par une atrophie du vagin et une diminution de la lubrification. Mais face à cela, il est possible d'agir. D'abord, en prenant le temps de faire les choses. Parce que si la lubrification se fait un peu désirer, ça ne veut pas dire qu'elle est disparue. Ensuite, en ayant recours à un traitement de substitution hormonale, hein, il y en a qui sont efficaces. Enfin, en se faisant prescrire des lubrifiants, là encore, on est équipé, il y a tout ce qu'il faut en pharmacie.
Bon, si je comprends bien, techniquement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais est-ce que tout cela peut compliquer l'accès au plaisir pour une femme ?
La sexualité et le plaisir qui va avec sont comme nous, ils changent, ils évoluent avec le temps. Une femme ménopausée sera peut-être moins sensible sensoriellement qu'elle pouvait l'être quand elle avait 25 ans. Mais tout cela peut être largement compensé par l'expérience, la complicité avec le partenaire, un regain de tendresse, voire une certaine forme de cérébralité. La ménopause est souvent l'occasion d'explorer de nouveaux territoires de la sexualité. Mais pour ça, il faut être deux. Parce qu'à l'inverse, si le couple est bancal, si sa vie sexuelle est fantomatique depuis des années, il est évident que la ménopause peut lui donner le coup de grâce. Cela dit, le meilleur allié d'une vie sexuelle épanouie et qui s'étire dans le temps, vous savez ce que c'est ?
Bah, vous avez l'air content de ce que vous allez nous annoncer.
Bah, ça se voit à ce moment-là. Alors, je vous dis tout, le sport, le sport. Bah voilà, l'activité physique. Si je me tue à vous demander de bouger, mesdames, c'est pour que vous viviez mieux et plus longtemps. Mais c'est aussi par égard pour votre vie sexuelle, donc amoureuse. Parce que le sport, mesdames, ça limite les bouffées de chaleur, ça vous rend belle, donc désirable. Et dès lors que vous en prenez conscience, eh bien, ça dope votre libido. Je sais que c'est la journée de la femme. Mais pour le coup, ce que je viens de dire, à l'exception des bouffées de chaleur, ça vaut aussi pour vous, messieurs.
Merci beaucoup Michel et donc à demain.
À demain.
Merci beaucoup Michel et donc...
RTL. Toujours avec vous.
Il est 8h20. Dans un instant, c'est la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, qui sera avec nous en direct dans ce studio. Elle reviendra bien entendu sur son baromètre de l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise. Et nous parlerons aussi avec elle de la santé de nos entreprises françaises. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 8h21. Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion. Et vous venez sur RTL ce matin nous dévoiler votre baromètre 2021 de l'égalité femmes-hommes au sein de nos entreprises. Pourriez-vous, Madame la Ministre, rappeler d'abord les notions qui entrent en ligne de compte pour calculer ce baromètre ?
Alors peut-être rappeler que depuis maintenant près de 50 ans, les entreprises doivent assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à poste identique. Ce qu'on voit, c'est
le que... premier chiffre que vous nous citez fait pas du bien, puisque ça fait 50 ans qu'on travaille là-dessus. Alors, et coup, qu'on n'a toujours pas réglé le problème.
Du coup, on peut dire que ça progresse insuffisamment, et c'est pour ça qu'on a mis en place cet index égalité professionnelle qui note les entreprises tous les ans sur la base de 5 indicateurs, les augmentations équilibrées entre les femmes et les hommes, la part des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Donc chaque année, les entreprises ont une note sur 100. Si elles ont moins de 75, elles doivent avoir des actions correctrices.
Oui.
Et au bout de 3 ans, si ça ne va toujours pas, elles s'exposent à une sanction financière qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale.
Ces sanctions tombent.
Alors ces sanctions, elles ne sont pas encore tombées puisqu'on n'est pas encore dans la troisième année.
L'an prochain ?
Ce qu'on peut dire, l'an prochain, absolument. Ce qu'on peut dire, puisqu'il y en a qui restent encore en dessous de 75 depuis 3 ans, ce qu'on peut dire, c'est que malgré la crise, les entreprises ont été au rendez-vous. Elles sont plus nombreuses que l'an dernier à avoir rempli leur indicateur, leur index dans les délais. Vous voyez, on était à 59% en 2020, et là, on est à 70% qui ont renseigné leur indicateur dans les délais.
Donc, vous nous dites que la crise n'a pas aggravé la situation ou qu'elle n'a pas servi en quelque sorte, alors pardonnez-moi, j'emploie une expression inélégante, mais de cache-sexe, pour ne pas faire les efforts qui auraient dû être faits.
Alors, elle n'a pas empêché les entreprises de répondre à leurs obligations et donc de renseigner cet index. Elles sont même 84% parmi les plus grosses entreprises, les plus de 1000, à avoir renseigné leur index. Et puis, sur le fond, on voit qu'il y a des choses positives, hein, puisque la note continue à progresser. Alors, modestement, on est passé de 84 à 85 en note moyenne. Chez les grosses entreprises, on a progressé de 5 points depuis 2019. On est passé de 83 à 88%. Donc, on a un certain nombre d'éléments positifs. On voit que cet indicateur fait bouger les choses. On peut dire aussi qu'on a 2% des entreprises qui ont la note maximale, donc 100. On peut peut-être les citer, parce que c'est bien.
Allez-y.
Allez, Brioche Dorée, Française des Jeux, Nicolas, qui ont 100 sur 100. Ça veut dire, à contrario, qu'il y a 98% des entreprises qui ont encore des marges de progrès.
Alors, est-ce que la taille de l'entreprise joue un rôle dans la capacité ou non à obtenir des résultats ?
C'est pas ce qu'on voit, vous voyez. On a à la fois des grandes entreprises qui continuent à être à moins de 75 depuis maintenant la troisième fois. Et puis, dans les entreprises que je vous ai citées, c'est plutôt des entreprises moyennes qui ont le nombre maximum de points. Et donc, enfin voilà, je pense que c'est vraiment la volonté du dirigeant qui fait que dans une entreprise, on a vraiment une volonté de respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, du coup, j'en appelle à tous les dirigeants pour faire mieux et continuer à progresser.
Alors, c'est très bien de citer des bons élèves comme Brioche Doré ou Nicolas. J'avais envie de vous dire, il faut citer aussi les mauvais, non pas du tout pour leur mettre la tête sous l'eau, mais pour prendre rendez-vous avec eux. Alors, je vois que, et ça n'est pas une plaisanterie, qu'il y a entre autres Monsieur Bricolage.
Je vous confirme. Voilà, ça bon, fait partie des entreprises qui ont moins de 75 depuis 3 ans. Donc là, il va falloir qu'ils se reprennent, parce qu'à partir de l'an prochain, ça sera effectivement des sanctions financières. Ils ont encore quelques mois pour progresser.
C'est le cas peut-être, aussi d'Avas Voyage ou de Foncia. Pardonnez-moi, se reprendre en main, ça veut dire quoi ? Et vraiment, avec quelle mesure à l'arrivée, si ça n'était pas le cas ? Soyons très précis pour donner de la force finalement à votre démarche.
Écoutez, je peux vous dire que les services du ministère du Travail sont très présents. On a dû faire 17 500 interventions en entreprise. Comme toujours, c'est d'abord pour conseiller, pour dire aux entreprises où elles peuvent progresser. Il y a quand même 300 mises en demeure et puis il y a eu 11 pénalités financières sur des entreprises qui n'avaient pas déclaré leur index ou qui n'avaient pas élaboré de plan d'action quand cet index n'était pas satisfaisant. Peut-être dire aussi qu'il y a
on peut s'arrêter sur les pénalités financières, parce que généralement c'est quand même le porte-monnaie qui fait faire des efforts, même si on sait que des entreprises peuvent décider en fait d'assumer, de payer
Je crois qu'il y a deux dimensions dans cet indicateur, vous voyez. Il y a d'abord un enjeu de communication pour les entreprises. Je pense que celles qu'on a citées, parce qu'elles sont mauvaises, elles ont des mauvaises notes, vont pas être très contentes. Et puis leurs clients vont
peut-être se dire... Non, c'est pas bon pour leur image.
Voilà, c'est pas bon. Si on a, par exemple, quelqu'un qui se dit « Tiens, je rejoins très bien cette entreprise », si la note montre que l'entreprise ne respecte pas du tout l'égalité entre les femmes et les hommes, peut-être que ça fait réfléchir. Et du coup, on attire moins de talents, vous voyez.
Et même pour les recrutements, en effet, vous avez raison, ça, c'est important.
Et du coup, peut-être dire que depuis ce matin, sur le site du ministère du Travail, on peut trouver la note de toutes les entreprises de plus de 250. Donc ceux qui soit sont dans une entreprise, soit envisagent de la rejoindre, peuvent avoir les notes sur le site du ministère du Travail.
Les pénalités seront-elles limitées en termes financiers et de quelle ordre peuvent-elles être posées, si je puis dire,
en tout cas appliquées ? C'est jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc quand on est une grosse entreprise, c'est pas rien.
Je pense que ça... Enfin, c'est évanescent pour ceux qui nous écoutent, 1% de la masse salariale. Pour vous, je comprends bien que ça ait un sens, mais quoi, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros, voire plus.
Voilà, voire plus. Ouais, voire absolument. Plus. Non, ça peut être beaucoup. Et en particulier, vous voyez, il y a deux indicateurs qui sont vraiment pas satisfaisants. Les femmes, l'augmentation des femmes en retour de congé maternité. Oui. Donc là, je voudrais rappeler que c'est une obligation depuis 2006 des entreprises d'augmenter les femmes qui rentrent de congé maternité comme leurs collègues. On a un certain nombre d'entreprises qui ne le font toujours pas. On en a même 171 parmi des entreprises relativement importantes, hein, plus de 250 salariés, qui n'appliquent pas la loi, pour dire les choses simplement. Ces entreprises, maintenant, on va faire des contrôles ciblés. Et il y aura des pénalités, des sanctions.
Là aussi, pour que nos auditeurs comprennent bien, il s'agit d'augmentations qui sont liées à leur retour de congé de maternité parce qu'une augmentation a eu lieu dans l'entreprise, ou c'est le congé maternité qui lui-même déclenche l'augmentation ?
Alors la loi, c'est quand vous rentrez de congé maternité, vous n'avez pas pu être évalué par votre manager, et donc du coup, on vous applique la même augmentation que vos collègues. Ça, c'est la loi. Et donc, on a des entreprises qui, depuis 3 ans, n'appliquent pas la loi. On les a bien identifiés grâce à l'index. On aura des contrôles ciblés et donc des sanctions. Et puis peut-être dire aussi qu'il y a un autre indicateur qui vraiment pose question, c'est la part des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Oui. Alors là, cet indicateur, il n'est pas bon non plus. 4 grandes entreprises sur 10 donc, ont 0, voire une femme parmi les 10 plus hautes rémunérations. Donc ça n'est vraiment pas satisfaisant. Je pense que ça montre aussi la part des femmes, finalement, dans les comités de direction, dans oui. les COMEX. C'est pour ça moi, je souhaite qu'on ait un nouvel indicateur qui permettra de mesurer la part des femmes parmi les cadres qui ont les postes à plus forte responsabilité, qui sont finalement les viviers dans lesquels on va trouver les futurs membres des comités de direction et comités exécutifs. Donc il faut qu'on avance sur ce point-là aussi.
On a compris les points sur lesquels il fallait faire des efforts. Madame la ministre, l'actualité reste marquée par la pandémie et cette question ce matin sur la vaccination en entreprise. On a vu le succès de la campagne ce week-end. Ce que le gouvernement n'aime pas appeler, des vaccinodromes, mais qui de fait en était, nos entreprises vont-elles ou peuvent-elles dès maintenant vacciner leurs salariés?
Alors, depuis fin février, la médecine du travail peut vacciner les salariés de plus de 50 ans qui ont une pathologie chronique.
Oui.
Et elles ont commencé à le faire. Moi, je souhaite que ça puisse s'accélérer. Quand on est sur cette catégorie de salariés, en même temps, il y a un enjeu de secret médical, donc ça ne peut pas se faire dans les locaux de l'entreprise. On demande aux entreprises de prévenir les salariés que la médecine du travail peut les vacciner. Quand on passera plus à toute la population, oui. tous les salariés, là, je suis convaincu que les entreprises joueront vraiment leur rôle, ce qu'elles font tous les ans pour la vaccination contre la grippe.
Vous avez une idée de la proportion d'entreprises qui vont pouvoir procéder à cela ?
Mais alors, toutes les entreprises vont pouvoir le faire, hein, puisque c'est la médecine du travail qui va pouvoir faire des vaccins. Donc, le service de santé au travail dont dépend une entreprise pourra vacciner les salariés dès à présent.
Donc ils sollicitent les vaccins exactement comme le ferait un médecin généraliste aujourd'hui pour pouvoir avoir ces doses.
Absolument.
Ou une pharmacie.
Absolument. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué en termes de logistique, mais on en parle avec Olivier Véran pour qu'on puisse amener plus facilement les vaccins dans ces services de médecine du travail pour qu'on puisse aussi accélérer la vaccination en entreprise.
Plus largement, quelle est la situation et la santé de nos entreprises un an, presque jour pour jour, après le début du confinement ? Quelle vision générale avez-vous ?
Vous savez, toutes les aides d'urgence qu'on a mis en place, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité, l'activité partielle, a largement préservé les entreprises. Vous savez qu'au plus fort de la crise, par exemple, on a pris en charge près de 9 millions de salariés avec l'activité partielle, encore 2 millions en janvier. Je pense que ça a bien protégé nos entreprises. Ça a aussi permis de limiter l'impact sur l'emploi. On voit, par exemple, que le chômage a progressé beaucoup moins vite qu'après la crise de 2008-2009. On a augmenté d'un peu plus de 7% le chômage en un an, alors que dans la crise de 2008-2009, il avait augmenté de 25%.
Autre question, est-ce que vous nous dites ce matin que le télétravail doit toujours rester la norme ?
Je vous confirme que plus que jamais, il faut absolument mettre en œuvre le télétravail. Les études montrent qu'on réduit de 30% les risques de contamination. Donc il faut que tous les postes qui peuvent être faits en télétravail le soient.
Un dernier mot sur la fraude, notamment au chômage partiel. Avez-vous renforcé les contrôles ?
Il y a beaucoup de contrôles. Il y a eu des centaines de milliers de contrôles. Et donc, ça nous a permis de bloquer 90% des tentatives de fraude ou de récupérer l'argent. Et on continuera à être très vigilants. C'est notre argent à tous, c'est l'argent des Français. Donc, on est vigilants.
Donc, il y a eu une réponse à 90% des cas potentiels ou engagés. Nous
absolument,
sommes bien d'accord. Vous avez des sommes d'argent physiques qui ont été récupérées ?
En fait, c'était 200 millions d'euros où on avait des suspicions de fraude. Oui. Et 90% a été bloqué ou récupéré. Et pour ce qui n'est pas encore récupéré, évidemment, on va continuer à aller chercher l'argent des fraudeurs.
Merci beaucoup, Elisabeth Borne, d'avoir pris la parole très clairement ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. Merci, madame.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Monique Younes. En pleine Fashion Week et en cette journée de la femme, je vous présente un livre fait par des femmes, avec des femmes, pour des femmes. Her Dior, son Dior, le livre mode de Maria Grazia Chiurie. Confidence avec la directrice artistique de Dior. Tout à l'heure, 9h, dans Laissez-vous tenter.
Et le matin,
avec Yves Calvi.
Cher Louis Baudin, il est 8h35.
Oui.
Et alors là, on se lance dans notre météo à 7 jours. C'est voilà, pas la plus facile, mais
la météo faut y aller. C'est pas la plus facile, non. C'est pas la plus fiable non plus. Mais bon, voilà ce que l'on prévoit là, en ce début de semaine, pour ces prochains jours. Donc aujourd'hui, on l'a dit, encore du soleil dans la moitié nord, des nuages dans le sud. Le froid toujours dans la moitié nord. En tout cas, des températures en dessous des moyennes de saison, alors que ça reste plus doux dans le sud.
Oui.
Demain, les choses commencent un peu à s'inverser. Ça n'avait pas duré. Donc le soleil va revenir dans la moitié sud, avec encore peut-être quelques averses sous forme de pluie de neige sur les Pyrénées, sur les Alpes, mais près de la Méditerranée, dans le Massif central, toutes les autres régions de la moitié sud, on va retrouver enfin un temps sec et ensoleillé. Et dans la moitié nord, c'est un petit peu l'inverse. On va retrouver un peu plus de nuages, notamment au nord de la Loire, mais pas encore de précipitations, sauf peut-être du côté des Ardennes avec quelques flocons, parce que le froid sera encore là. Le matin, toujours de fortes gelées dans la moitié nord et des températures un peu justes l'après-midi. On aura encore du mal à atteindre les 10 degrés dans la moitié nord, alors qu'on sera entre 10 et 15 dans le sud. Et puis mercredi, là, c'est inversion. Total. Ah. Retour d'un temps sec et très ensoleillé dans le sud, alors que le ciel sera de plus en plus nuageux dans la moitié nord. En attendant une perturbation qui arrivera le soir par le nord-ouest et qui va traverser jeudi toute la France avec des nuages, de la pluie et du vent fort. On approchera les 100 km/h au nord de la Seine dans cette journée de jeudi. Oui, une petite tempête, voilà, au mois de mars, c'est normal. Et en tout cas, ça peut arriver.
Et pardonnez-moi, une tempête, par définition, ça circonscrit dans le temps. Enfin, on ne se prend pas 6 heures de tempête.
Non, on ne se prend pas 6 heures d'accord, de tempête. C'est une perturbation qui va glisser dans la journée et qui laissera pendant quelques heures.
Je rentrerai mon linge.
Voilà, il faudra rentrer le linge, notamment au nord de la Seine. Un petit peu de vent, ce n'est pas non plus une tempête exceptionnelle, attention. Et puis ensuite, ça ouvre la porte à d'autres perturbations pour la fin de semaine, avec un temps frais, humide, beaucoup de neige en montagne. Elle va revenir abondamment sur quasiment tous les reliefs, notamment dans les Alpes du Nord. On aura du soleil, mais du vent près de la Méditerranée, et puis à partir du week-end prochain, de nouveau de l'air plus frais pourrait revenir avec peut-être un temps plus sec, mais de nouveau des températures en baisse.
Vous avez plein de choses à nous raconter. Ah, oui. On va avoir un temps intéressant, quoique un peu tempétueux.
C'est vrai.
Et nous allons observer tout cela grâce à vous, Louis Baudin. Merci beaucoup.
Merci.
RTL, vous êtes comme ça.
À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Vous êtes comme ça vous propose ce matin le portrait d'une femme au métier pour le moins atypique, celui de barbière. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez à la rencontre de Sarah Amizi. Elle prend soin de la barbe et des cheveux des hommes depuis 25 ans. Sa franchise, la Barbière de Paris, est implantée dans 7 salons en Ile-de-France et vous l'avez rencontrée dans le premier arrondissement.
Au milieu du salon, de grands néons éclairent les fauteuils où sont installés les clients et dans le reflet du miroir, Sarah Amizi, l'œil attentif, elle observe l'un de ses employés en train de tailler une barbe avec plusieurs instruments.
Des peignes, des ciseaux, tondeuses. Et puis il y a tous les produits qui vont avec, donc de l'huile de la barbe, du sérum. Et on vient donc tout simplement arracher cette cire qui va faire que le poil va venir avec.
Quelques minutes plus tard, le visage de chaque client est embaumé dans une serviette chaude.
C'est le meilleur moment ?
Ouais, ça devrait durer un peu plus longtemps d'ailleurs.
Jules vient ici tous les mois.
Très belle barbe, épilation, et pour essayer que ça ressemble un peu plus à quelque chose de propre. J'ai essayé par moi-même, tout à table.
On voit bien que le poids de la barbe est beaucoup plus drôle.
Des barbes, Sarah Hamizi en a sculpté des dizaines, mais c'est un visage bien particulier qui lui a donné envie d'en faire son métier.
Quand j'étais jeune, on habitait à la campagne et j'avais un grand-père qui adorait se raser. Alors, il n'était pas barbier, mais il avait un rituel au-dessus de la maison, on avait un vieux chêne. Et nous, les petits-enfants, on avait le droit de l'accompagner, de le regarder faire. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse, entre guillemets, je suis devenue passionnée de ce métier.
En plus de conseiller des marques de luxe pour la création de leurs produits pour hommes, Sarah Hamizi a initié chacun de ses 35 collaborateurs à la méthode Barbière de Paris.
Nous, on forme notre personnel, mais moi, mon objectif, c'est une certification qui est validée par l'éducation nationale qu'on doit remettre au goût du jour. Et c'est plus que nécessaire parce que moi, de mon côté toute seule, je ne peux pas arriver à former tout le monde, ce n'est pas possible.
Elle vérifie donc la précision de chaque coup de ciseau ou de tondeuse. Francisco est ici depuis décembre, il est en plein milieu d'une coupe de cheveux.
J'ai vu que la barbière de Paris recrutait. Dans le monde de la barbe, c'est un endroit reconnu. Pour moi, c'était une bonne expérience de venir travailler ici. En plus de la formation qu'ils offraient à chaque nouvel arrivant. J'apprends toujours, même si... J'en ai appris pas mal, je continue à apprendre.
Apprendre, c'est peut-être le mot qui fait le plus sourire la gérante aux cheveux courts, plus de 20 ans après l'ouverture de son premier salon.
J'ai choisi ça peut-être au fond aussi pour rendre hommage à mon grand-père, par rapport à ce qu'il entreprenait en se rasant, c'est de se rendre beau. Et puis mon objectif, oui, c'est de sublimer l'homme. Et mon autre objectif, c'est une phrase que j'aime beaucoup, auquel je crois, c'est amener ce métier d'artisan au rang d'art.
Et pour ça, Sarah Hamizi va publier un quatrième livre sur le sujet avec ses conseils pour sublimer toutes les barbes.
Le portrait de Sarah Hamizi, la barbière de Paris qui sublime les hommes. Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous êtes comme ça à retrouver comme tous les autres reportages sur RTL.fr et sur notre application mobile RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40 et ce matin, avec vous Isabelle Choquet, on se fait tirer le portrait, dites-moi.
Oui, vous vous souvenez Yves, quand on prenait des photos avec un appareil photo,
oui.
Avec une pellicule dedans. Vous vous souvenez, les années 90?
Pour 50 balles, coucou, crois-moi, t'as un Konica, un jetable de Konica. Pour impressionner ta nana, c'est autre chose que de l'emmener au cinéma. 24 photos.
Ah, eh bien, retour vers le futur. Laissez-moi vous présenter Dispo, une nouvelle appli photo assez étonnante.
Ah oui.
J'ai découverte ce week-end dans Le Monde. Dispo vous propose d'utiliser votre iPhone précisément comme un appareil photo jetable, disposable camera en anglais, d'où le nom. Concrètement, cela veut dire que les heureux élus, ah oui, parce que pour l'instant c'est sur parrainage, hein, c'est comme oui. Clubhouse, donc les heureux élus découvrent une interface, disons, dépouillée, c'est pas cheap, c'est vintage, juste une toute petite lucarne au centre de l'écran, comme le viseur de nos bons vieux jetables. Vous appuyez sur le déclencheur et voilà, c'est tout. Impossible de modifier l'image, vous ne pouvez pas appliquer de filtre, pas de retouche, pas de recadrage. Et en plus, comme avec un appareil photo argentique, il faut du temps pour développer, si on peut dire. Donc vous n'aurez pas vos clichés avant le lendemain matin, 9h. Les photos arrivent alors avec des petits défauts dans le grain ou l'exposition, pas parce que vous avez raté, hein. C'est l'appli qui les ajoute de façon aléatoire. Les photos sont réparties ensuite dans des rolls, des pellicules. On peut liker, mais bon, pas plus. Hein. Le principe, c'est interaction minimum. Alors, parmi les tout premiers Français sur l'appli, il y a Kelly, 25 ans. C'est une jeune ingénieure informatique. Dispo, pour elle, c'est une Madeleine de Proust. Ça ressemble aux appareils qu'on emportait en colonie de vacances. Parfois, les photos sont ratées, floues, surexposées. C'est authentique. Et le plus intéressant à l'entendre, c'est de ne pas voir le résultat avant le lendemain. Dans une époque où on a tout tout de suite, eh bien c'est agréable de prendre son temps. Bref, vous poirotez des heures pour découvrir des photos moches. Et vous savez quoi? Ça cartonne. Dispo, c'est un petit bébé encore, hein, né le 19 février dernier, mais déjà valorisé à 200 millions de dollars tout de même. Et 7e dans sa catégorie sur l'App Store américain. C'est ce qu'on appelle la technostalgie, un joli mot valise qui explique aussi le retour en grâce du vinyle, du Polaroid et de la machine à écrire.
987.
Le charme du passé et un rejet des dérives du présent. Les slogans de Dispo sont sans ambiguïté. Vivez l'instant présent, revenons à la réalité. Sous-entendu, ici, on n'est pas sur Instagram. Le réseau social est de plus en plus critiqué. Trop de filtres, trop de retouches. Tout devient lisse et standardisé. C'est la course à la photo la plus waouh. Résultat, toujours les mêmes paysages incroyables aux couleurs surnaturelles. Toujours les mêmes visages d'une beauté franchement trop parfaite pour être honnête. Aujourd'hui, on est en plein retour de flamme. On voit se multiplier multiplier les comptes Insta consacrés à la mocheté. Oui, les célébrités n'hésitent plus à publier leurs photos dumps, des compilations de photos ratées. Bref, Dispo a capté l'air du temps. C'est l'appli de l'imperfection assumée et aussi de la simplicité retrouvée. Sur Instagram, dit une utilisatrice, il m'est arrivé de vouloir embellir des paysages, des couchers de soleil. Alors je mettais des filtres, je jouais avec tous les outils et à la fin, je ne savais même pas si le résultat était meilleur que l'original. Dispo, c'est une forme de liberté. Une autre adepte renchérie, ça te permet de vivre l'instant sans penser au résultat. Où est-ce que les gens vont dire ? Tu prends ta photo et après, ça ne dépend plus de toi. Une mode, peut-être, ou alors un vrai retour aux sources, allez savoir, pour nous rappeler qu'avant d'aimer les images, Yves, on a aimé la photo, tout simplement. Dispo, l'appli des photos moches, c'est-à-dire dans le monde.
Vous m'avez passionné. Tiens, je vais faire une photo de toute l'équipe de Laurent Gérard, qui est réunie déjà dans notre studio, et ce sera magnifique.
Et elle sera ratée, je vous préviens.
Oui, mais bien entendu, c'était elle, car tel est mon propos. Je vous écoute. A tout de suite avec Laurent et toute son équipe.
À 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h46.
Voilà, nous rions, bonjour. Nous rions.
Bon, allez, tiens, ça nous fait même 8h47. Oui. Bonjour, Laurent Gérard.
Bonjour, Yves. Voilà.
Bonjour, mademoiselle Jade.
Bonjour, monsieur Calvi.
Et... Bonjour, très bien.
Bonjour, tout le monde. Oui, c'est vrai. Depuis plusieurs mois, le Premier ministre et le ministre de la Santé donnent rendez-vous aux Français tous les jeudis à 18h pour annoncer de nouvelles mesures et répondre aux questions des journalistes. Mm-hmm. Nous nous sommes procurés les prochains épisodes de ce passionnant feuilleton.
Oui. Ah. Mes chers téléspectateurs, mes chères téléspectatrices, dans un souci de clarté et de transparence, en vérité, je vous le dis, et tous les indicateurs le disent avec moi, ça monte. Mais, ça monte moins que si ça montait plus. C'est pourquoi, en responsabilité et en comorbidité, j'ai décidé de reconfiner. Mais uniquement les départements pairs. Et maintenant, j'attends vos questions. Oui, là-bas, je vous écoute. Oh, c'est Marc-Olivier Faugiel, le général manager de BFM TV, la news channel, ex-leader sur l'accès le Prime. Bonjour, monsieur le Prime Minister. Qu'en pensez-vous ? Autorisez finalement les restos clandestins pour les journalistes de BFM TV qui en ont marre de manger des chicken wings et des burgers dans leur open office. Oh. Monsieur Faugiel, en responsabilité, oui, en comorbidité et en vérité, je vous le dis, nous rouvrirons les restaurants dès que nous aurons trouvé la solution pour manger avec des masques. L'Institut Pasteur y travaille et je suis confiant dans la recherche de notre pays. Une autre question, mais le monsieur en blouse blanche qui ressemble à Patrick Sébastien. Oui, allez-y, je vous écoute.
Salut, pas cher.
Oh, non.
Professeur Raoult, directeur de l'Institut Hospitalier Universitaire de la Canebière. Je sais pas si t'as lu ma nouvelle étude, c'est authentique. J'ai démontré qu'on pouvait choper la Covid rien qu'en suçant une chicha. Alors, comme je sais que vous d'autres, les crânes d'œufs technocrates de Paris, vous voulez tout interdire, je voudrais savoir si vous allez aussi empêcher les turlutes derrière les dunes.
Je vais tenter de vous répondre. En responsabilité, je demande au ministre de la Santé de recruter des volontaires pour conduire une étude exhaustive. Mes chers compatriotes, c'est la fin de notre feuilleton du jour. À jeudi prochain pour la suite. Envoyez le générique de Covid la vie.
Monsieur Calvi, c'est aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes, une journée prise très au sérieux dans l'émission de débat de nos amis Philippe Bouvard et Jean-Michel Apathy sur la chaîne régionale Azur TV. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Azur TV, la TV des Azuréens et des Azuréennes, monsieur Calvi, car oui, c'est aujourd'hui la journée de la femme.
Pardon de vous corriger, chère consoeur, mais le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale du droit des femmes. À l'heure de la libération de la parole féministe, la précision est d'importance.
Ouh là là, pardon Jean-Michel, vous avez raison. Oui. Et vous Philippe, que pensez-vous de cette journée ?
J'aime les nénés, oh bah pour sûr, hein, surtout les gros. Hein.
Non, je vous demandais ce que vous pensiez de la journée internationale du droit des femmes.
Les femmes, ben justement, hein, j'ai J'en ai une savoureuse à vous raconter.
Oui, oui.
Est-ce que vous savez quel est l'animal qui ressemble le plus à une femme ?
Non, dites-nous, Philippe.
La poule.
Oui.
Parce qu'elle a une petite tête, un gros derrière, elle bouffe tout le blé, hein ?
Mais enfin, c'est aberrant, la journée internationale du droit des femmes mérite mieux que les blagues douteuses de Monsieur Bouvard.
Vous avez raison, Jean-Michel, restons sérieux un petit peu. Hein. Alors justement, pour la journée de la femme, le salon de coiffure Ainsi soit-il de Roquefort-la-Bédoule offre 20% de réduction toute la journée sur les brushings.
Ah. À ce sujet, savez-vous pourquoi les bonnes femmes se mettent des bigoudis ?
Non.
Parce qu'elles frisent souvent le ridicule, hein ?
Mais c'est aberrant ! Ma réputation de journaliste progressiste va encore être cornée.
Je le crains.
Je vais être la risée de Camélia Jordana et Caroline Doras sur Twitter.
J'en parlerai à mon cheval, hein ? Allez tous vous faire enculer !
Oui, bon, d'accord. Bonjour Jean-Marie Bigard. Que nous vaut le plaisir ?
Ben, c'est 8 mars. Et 8 mars, c'est la journée internationale des droits des gonzesses. Alors, le gars, il est venu pour la célébrer, la gonzesse, le gars.
Oui, je ne suis pas sûr que vous soyez la personne idoine pour cela.
Quoi ? Je vais t'en dire une quand même. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif et méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité.
J'avoue que je suis agréablement surprise par cette citation.
Ben ouais, même que c'est du momone de Beauvoir, la citation, là. Et ça veut dire que le mec qui tape sa gonzesse, c'est qu'il a une petite bite, le gars, avec une paire de couilles minuscules, le gars.
On a bien compris, Jean-Marie, on a compris.
Attends, je vais t'en faire une autre. Elle est de Colette.
Oui.
Ah, Colette, c'est pas le magasin pour Bobo qui s'achète des baskets à 1000 balles. Non, je parle de Colette, celle qui a écrit des bouquins merveilleux avec son mec Willy, que son mec Willy lui a volé en les signant à sa place. C'est une enflure, le gars. T'es prête ?
Oui, oui, allez-y, Jean-Marie.
La femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout contre un mur. Ça veut dire que le gars, son seul talent, c'est de sortir sa toute petite bite, le gars, et de pisser sur le mur.
Oui, non, bah, c'est bon, on a compris.
Bon, alors, le gars, maintenant, pour célébrer la journée de la gonzesse, il va faire son sketch, le lâcher de salope. Alors, le gars...
Ah non, non, merci Jean-Marie, on n'a plus le temps. Le pape François est rentré hier d'une visite historique en Irak et il nous a bien sûr réservé la primeur de ses impressions de voyage. Bonjour votre sainteté.
Salam alaikum, Shaliad de la Sainte Poilade. Malikoum salam, bivouz calvinus matinalis.
Bon, vous êtes bien rentré après ces journées harassantes en Irak.
Oui, je suis rentré avec Alitalia en classe éco à cause du carême. Parce qu'il a acheté un tapis volant au souk de Bagdad, mais il a essayé, ça ne marche pas. Il n'a jamais décollé, encore raté, ça m'énerve.
Bon, mais vous allez pouvoir vous reposer maintenant.
Oui, après mon retour de Bagdad, je vais pouvoir dormir, mais il est une nuit. Je suis crevé parce qu'hier, j'ai fini par un méga concert en plein air.
Oui.
J'ai tout donné à mon public. J'ai fait plus de monde que les Rolling Stones. Il faut les faire.
Ben, c'est vrai que votre visite a été très suivie, très commentée surtout. Vous avez été chaleureusement accueilli.
Oui, partout où je suis passé, on m'a sonné les cloches.
Oui. Alors, un des points forts de votre visite, ce sont bien sûr ces images que l'on a tous vues de votre rencontre historique avec le grand ayatollah Ali Sistani.
Oui, j'ai rencontré les grands barbous.
Et pour les imams.
Oui, si. Oui, si. Il a une robe comme moi, mais il ne se rase pas.
Ah, oui.
Il trouve que ça fait négliger sa barbe. Il m'énerve.
Oui.
Mais sinon, il est décontrasté. Il a voulu me vendre du shiite.
Ah, du shiite. C'est un peu normal.
Mais, mes petites souris, tac, 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 se sont cachées dans son turban. Elle a fait rire, il faut les faire.
Alors très bien, de quoi avez-vous parlé tous les deux ? Si ça n'est pas indiscret, bien sûr.
Il lui a demandé comment il faisait pour laver sa robe noire sans que ça déteigne sur les slips et les tricots déco et les soutiens-gorge de ses 14 femmes. Ça l'a énervé. Il m'a dit qu'il fait tourner un programme couleur à 60. Et comme lessive, il prend Daesh.
Ah ben oui.
Daesh.
Daesh, oui.
Il a même voulu échanger deux barils de Daesh contre un baril de Super Croix. Mais il a refusé.
Ah non, voilà. Mais c'est trop court, ça va pas du tout. Faut que ça continue, c'est
On vous en fera d'autres.
Les belles aventures. Alors, eh ben, en tout cas, les aventures de toute l'équipe de Laurent Gérard, vous les retrouvez sur le site RTL.fr. Puis nous avons rendez-vous demain matin.
Ah oui, avec joie.
Merci à toute l'équipe. Vous voulez une petite tartine d'avocat avec un œuf mollet?
Ah,
j'ai besoin
d'avocat en ce moment. Ça, je peux vous le dire.
Ben, ça tombe bien, Cyril Lignac va s'en occuper dans un instant.
Une tartine d'avocat, c'est bien ce qu'il va me falloir.
À demain matin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril Lignac, bonjour d'abord. C'est une bonne façon de vous accueillir. Edith vit dans le Val-d'Oise, ça commence bien. Et elle voudrait une recette réconfortante et saine pour bien démarrer la semaine. Que lui proposez-vous?
Alors, moi j'adore manger les œufs parce que je trouve que c'est nourrissant. C'est bon, c'est un hommage à Isabelle Morini-Bosque.
Bah oui. Ah,
et on peut les manger de différentes manières. Donc là, j'ai pris une tranche de pain que je toaste. Après, je prends un avocat que j'écrase avec du jus de citron, du piment d'Espelette, du sel, un petit peu d'huile d'olive. À côté, je cuis mes œufs. Donc 6 minutes pour un œuf mollet. Je les cale bien dans de l'eau glacée pour garder l'œuf bien moelleux et bien mollet à l'intérieur.
Parfait.
Ensuite, on peut ajouter, selon la saison, des radis. Alors là, c'est pas la saison des courgettes, mais quand c'est un peu plus vers l'été, on peut mettre des petits pois, des courgettes. Là, on peut mettre des radis. Et ensuite, on peut aussi rajouter un petit peu de chair de tourteau, si on veut.
Oui,
donc ça nous fait une belle tartine. On coupe l'œuf en deux, on le dépose dessus et on a une tartine croustillante, de l'avocat écrasé, un petit œuf mollet, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette. Et ça, je peux vous dire que c'est bon pour démarrer la semaine.
C'est top, votre histoire. On retrouve le tout sur le site RTL.fr. Et je vous dis à demain matin. Merci mille fois. Vous voulez ajouter quelque chose, si?
Ce sera tout. À demain, monsieur Calvi.
À demain. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité, Jérôme Flora.
La famille royale d'Angleterre s'était inquiétée de la future couleur de peau du bébé de Meghan Markle et du prince Harry. Accusation de racisme, appel voilé de la part de l'ancienne actrice métisse cette nuit à la télévision américaine. 2 heures de grand déballage où Harry s'est dit déçu par son père, le prince Charles et William, qu'il qualifie de prisonnier d'un système. Silence radio ce matin au palais de Buckingham. Le pape François a quitté l'Irak, la fin d'une visite de 3 jours, sans incident et surtout historique. Premier déplacement d'un souverain pontife dans ce pays. Pour la 3e année consécutive, les entreprises doivent publier leur index de l'égalité femmes-hommes. Bilan, peut mieux faire. Pour Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invitée de RTL, le gros point noir reste le retour de congé maternité.
C'est une obligation depuis 2006 des entreprises d'augmenter les femmes qui rentrent de congé maternité comme leurs collègues. On a un certain nombre d'entreprises qui ne le font toujours pas. On en a même 171 parmi des entreprises relativement importantes, hein, plus de 250 salariés, qui n'appliquent pas la loi, pour dire les choses simplement. Ces entreprises, maintenant on va faire des contrôles ciblés, et il y aura des pénalités, des sanctions.
Et puis en football, la Bérésina jusqu'au bout pour Marseille, éliminée de la Coupe de France par les amateurs du Canet en Roussillon, 2-1. Se sont aussi qualifiés hier pour les 8e, Lille, Châteaubriand et Angers.
Jérôme Florin.